Bien. Ça marche là? Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'espace Mendès France pour la première soirée de la saison. On commence par de l'économie. Merci d'être là. Merci à Christine Sarrazin-Baudou de représenter le maire président de l'agglomération Alain Claisse. Merci à Patricia Persicot, adjointe au commerce, d'être parmi nous. Monsieur le président de l'université, bienvenue, comme à peu près 80 à 90 fois par an. Bienvenue dans cette maison qui est la tienne et celle de l'université, mais vous le savez. Merci à Catherine Basque d'être là pour la région Nouvelle-Aquitaine. Vous le savez, cette maison s'est fait un point d'honneur depuis de nombreuses années à faire des sciences humaines un point fort du développement de sa programmation. Ce soir, nous avons la chance d'avoir un intervenant de marque, Olivier Bouba-Olga, que vous connaissez forcément parce que vous le croisez ici à Poitiers, au sein de son université, dans les rues, dans les nombreuses réunions auxquelles il participe. Mais j'arrive d'un endroit qui est là, en fait notre capitale régionale, Bordeaux, et c'est une personnalité écoutée pour ses avis. Alors, le fait de se retrouver ce soir à débuter une saison de culture scientifique en parlant d'économie, de territoire, de géographie, n'a rien d'anodin. Monsieur le doyen, nous vous avions perdu. Merci à Pascal Chauchefoy d'être aussi parmi nous, un des co-auteurs de l'ouvrage. Ce n'est pas tout à fait par hasard, parce que vous savez que dans le cadre des grandes évolutions actuelles, la question des territoires que nous traitons depuis très longtemps devient une question cruciale. Alors, le plus important est bien sûr que la connaissance avance. C'est le cas dans les réflexions que mènent nos universitaires, ici à Poitiers et dans le cadre de leur réseau. Mais surtout et avant tout, que nos concitoyens puissent se trouver confrontés à ces débats d'idées, à ces réflexions, mais également à ces interrogations, parce que les sciences économiques émettent toute une série de théories qui sont confrontées à une information quotidienne, banale et domestique, dit-on parfois, et il faut pouvoir donner quelques clés d'explication. Alors l'espace Mendès France a depuis longtemps, autour de l'économie, travaillé, d'ailleurs avec une partie des auteurs de cet ouvrage, puisqu'il y a une douzaine d'années, on avait déjà monté une exposition qui reste pour moi une originalité sur les circuits économiques, avec des jeux de rôle qui avaient tout à fait passionné nos publics, et puis se retrouver dans un processus de mise à disposition de nos publics, c'est quelque chose qui est devenu naturel voici 2 ou 3 ans, quand on a lancé avec Sciences Éco l'idée du printemps des territoires. Et cette idée a fait germer toute une série de choses. Et l'ouvrage qui est ce soir présenté à travers cette conférence et qui est en vente à un prix modique, je le signale, à l'accueil de l'espace Mendès France, va permettre de diffuser à la fois par ce bel objet, merci Thierry Pasquier d'avoir travaillé là-dessus, merci au conseil avisé de Jean-Luc Terradillos, qui a disparu. Ah non, il est là, Jean-Luc Terradillos, le rédacteur en chef de l'actualité Nouvelle-Aquitaine, qui déjà avait enclenché le système voici quelques mois. Alors tout ça pour dire que ces éditions qui vont être numérisées, mises à disposition de nos publics, vont donner lieu à d'autres supports, et en particulier une exposition qui est quasiment terminée, une exposition économie, territoire, géographie, qui est une originalité, une singularité qu'on mettra à disposition du public, des publics, très prochainement sous forme numérique, en partenariat avec un établissement qui n'est pas loin d'ici, qui s'appelle Canopée. Donc pour vous dire que la diffusion, pour nous, elle est essentielle. Alors ce soir, il y a un élément important qui est celui d'un premier débat, d'un premier échange avec vous, mais d'autres rendez-vous sont prévus. Et sachez que cette histoire de printemps des territoires a fait des émules, puisque récemment, un des vice-présidents de l'Université de Toulouse, ami de Edgar Morin, était dans cette salle. Et Pascal Ruggiero m'a demandé encore l'autre jour si le printemps des territoires était réitéré. Je lui ai dit oui. Donc Toulouse aura son printemps des territoires, tout comme Lille. Donc pour dire que nos affaires qui mettent en évidence le fait que l'économie et sa présence territoriale doivent être mises aussi à disposition de nos publics commencent à faire des émules et à faire école. Voilà, donc c'est ce travail de bénédictin, disait-on autrefois, laborieux, méticuleux, grâce à vous, intelligent et fin, parce que cet ouvrage, quand on le regarde, il y a beaucoup, beaucoup de choses, très accessibles, donc on vulgarise l'économie, ce qui n'est pas forcément une innovation, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est malheureusement trop rare. Donc j'espère qu'on fera des émules. Donc voilà, donc bonne soirée. Alors Olivier, je te laisse présenter l'ouvrage à travers ta conférence. Je voulais vous remercier, Pascal, Olivier, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, de permettre à cette maison de s'emparer de cette thématique qui n'est pas évidente et d'enclencher des projets ultérieurs dont on reparlera très très prochainement. Donc bonne soirée. Merci Olivier.
Merci beaucoup. Effectivement, l'objectif, c'est de vous présenter l'ouvrage qui sort. Alors, je ne vais pas trop vous en dire, parce que sinon, vous ne l'achèterez pas, vous ne le lirez pas. Donc, c'est juste quelques petits éléments sur le contenu de l'ouvrage. Donc, c'est un ouvrage collectif, en fait, qui est issu d'un travail. Donc, c'est vrai que c'est un peu une spécificité, je pense, du labo d'écho de Poitiers, mais pas que du labo d'écho. D'ailleurs, je crois que Pascal est en train aussi de réfléchir sur l'histoire de la recherche autour des territoires sur Poitiers. Et je pense qu'il y a des choses assez intéressantes à révéler, quoi, des choses qu'on se dit après coup, mais quand même, c'est bizarre. Ça bosse de manière un peu différente d'autres endroits. On est plus sur le terrain, on est plus à aller enquêter les acteurs, etc. Donc, ça, c'est aussi un des produits, peut-être, hein, d'une histoire un peu plus longue de la recherche en sciences sociales sur Poitiers autour des territoires. Donc c'est un ouvrage collectif qui est issu d'un travail qu'on a fait pour la Caisse des dépôts et consignations, pour l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et consignations, qui est basé, c'est une petite équipe qui est basée à Paris, qui finance des recherches, qui ont beaucoup financé un autre chercheur, Laurent Davzy, auquel, disons, avec mon co-auteur Michel Grossetti, on se confronte pas mal, mais c'est ce que je mets aussi dans les remerciements, c'est... Au moins, l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et consignations s'est dit « Bon, bah, y a des chercheurs qui ne sont pas d'accord, on va les financer, les différents, et puis on va voir de cette confrontation qu'est-ce qui émerge. » C'était aussi en lien avec les directions régionales de la Caisse des dépôts et consignations de 5 régions. Et la commande, c'était ben, « voilà, les directions régionales des Caisses des dépôts et consignations financent pas mal de choses sur les territoires, mais parfois, elles ne savent pas comment décrypter, lire un peu ces territoires-là, et savoir si ce qu'elles financent, c'est le plus pertinent vu les problématiques que les territoires rencontrent. » Et donc, la commande, c'était pas seulement qu'on explique comment fonctionnent ces territoires, mais qu'on propose aussi des éléments de méthodologie. Comment faut-il regarder aujourd'hui les territoires ? Donc c'est beaucoup cet ouvrage, je leur dirai peut-être tout à l'heure, c'est aussi un discours de la méthode en fait. C'est comment regarder les choses pour mieux comprendre les territoires et donc après mieux agir pour les acteurs publics. Donc c'est un travail réalisé, hein, les personnes qui ont travaillé avec moi sur cette recherche, donc Pascal, Héloïse Chiron, donc, qui était étudiante en stage, qui a bossé pas mal sur deux territoires, Marie Ferru, Benjamin Guimont et Emmanuel Nadeau. On y est allé et c'est un travail de recherche, c'est-à-dire c'est pas voilà, on allait expérimenter aussi une façon de regarder les territoires, voir un peu ce que ça donnait. Arriver à des propositions, des préconisations, et puis encore une fois de la méthode. Ce que je précise dans l'introduction du bouquin, c'est que c'est... Alors, on a travaillé sur 5 territoires, donc le plateau de Millevaches, en Limousin, Belfort-Montbéliard, le Sillon Lorrain, Pau et Toulon. Mais ce que je précise d'emblée dans l'ouvrage, et ce que je vous redis ce soir, c'est que ce n'est absolument pas une suite de monographies de territoires. Ces terrains-là ont été choisis parce que, voilà, moi j'ai dit, on va pas bosser sur toutes les régions françaises, c'était pas possible, on n'avait pas le temps, ni la force, ni l'énergie. Donc on a travaillé avec les 5 directions régionales les plus intéressées par la démarche, avec lesquelles on pouvait. Et c'est avec ces directions régionales qu'on a choisi les terrains, c'était des territoires à enjeu, leur semblait-il, en tout cas ça les intéressait de regarder un peu plus précisément ce qui s'y passait. Hein. Donc ce n'est pas une suite de monographies, c'était plutôt tester une méthodologie d'analyse de certains territoires. Et si cette méthodologie est valide, hein, recevable, elle doit marcher à peu près sur tous les territoires. Elle doit nous permettre de dire des choses intéressantes en tout cas. Donc ça continue, on a commencé à travailler sur 6 autres territoires avec la région de Nouvelle-Aquitaine. On a présenté un travail là récemment avec Emmanuel Nadeau sur Sainte-Saint-Jean-d'Angély. Voilà, et je pense que voilà, il y a vraiment matière à continuer les recherches. Alors, ce que je vais faire, c'est vous présenter quelques éléments, un peu le plan en fait de l'ouvrage, et puis vous dire quelques Quelques mots sur chaque partie. Donc, ça commence par un chapitre, donc après l'introduction, sur l'obsession du modèle. Là aussi, c'est quelque chose, je pense, auquel on tient tous les chercheurs de Poitiers, avec petite citation que j'aime bien. Hein. Voilà, une idée fausse, mais claire et précise, aura toujours plus de puissance dans le monde qu'une idée vraie, mais complexe. Dans les travaux de recherche que je mène, en fait, mon sentiment, c'est qu'en termes de fabrication des politiques publiques en France, on est trop à la recherche du modèle générique de développement économique. Et ce n'est pas récent, en fait. Hein. Si on refait un peu l'histoire des politiques de développement économique, on a toujours été tenté par ça. Années 90, la DATAR, le modèle, c'était les districts industriels italiens. Donc c'était des petits territoires périphériques, pas des grosses agglos, etc., qui marchaient bien, qui avaient bien résisté à la crise du fordisme. Et on s'est dit, ah ben ça y est, c'est ça le modèle, il faut soutenir ça. Et donc à l'époque, donc la DATAR, pilotée par Jean-Louis Guigou, a mis en place la politique des SPL, des systèmes productifs locaux. Donc c'était l'époque du small is beautiful. Hein. Ah, les petits territoires, ils marchent bien, c'est trop bien, vite, vite, généralisons ça. Donc la DATAR a labellisé une centaine de territoires en France, mis un peu de moyens, fait des appels à projets, et puis voilà. Quelques années après, la mode, c'était plus les SPL, on avait découvert la Silicon Valley. Donc là, un territoire plus dense, et on a observé beaucoup de relations entre entreprises privées, laboratoires de recherche, centres de formation. Et le gouvernement s'en est aussi emparé, et puis ça a donné lieu à la politique des pôles de compétitivité. Donc nouvelle mode, nouveau modèle, et nouvelle politique un peu générique qu'on essaie d'appliquer un peu sur tous les territoires. Et plus récemment encore, depuis quelques années, la mode, c'est quoi? C'est les métropoles. Donc, c'est plus le small is beautiful du début des années 90, c'est le big is beautiful. Alors, c'est vrai pour les territoires, mais pas que. Enfin, je pense qu'on pourra en parler. Il nous faut des grandes universités, il nous faut des grandes régions, il nous faut des grandes villes. Il y a un peu cette idée-là, l'existence d'effets masse critiques qui seraient favorables au développement économique. Donc, ça, c'est une façon... Alors, ça interroge beaucoup, parce qu'à travers la rédaction de cet ouvrage... Je pense que ça ne parle pas que de territoire, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la recherche? Qu'est-ce qu'on recherche? Et c'est vrai qu'en tant que chercheur, je pense qu'on est un peu sollicité là-dessus, sur, alors peut-être plus les économistes d'ailleurs que d'autres disciplines, ça c'est des choses dont on pourrait parler, mais ouais, c'est quoi le modèle? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On est à la recherche de réponses un peu normatives. Ah ben c'est ça le modèle de développement économique, faites ça sur les différents territoires et ça va marcher, on va créer des richesses et de l'emploi. Donc ça c'est une façon de... Enfin le chercheur est sollicité là-dessus. Dites-nous ce qu'il faut faire. Et en fait, moi je pense à travers mes travaux et puis les auteurs sur lesquels je m'appuie, c'est presque un autre positionnement philosophique, quoi. C'est de dire le chercheur il n'est pas sollicité pour dire ce qu'il faut faire. Il est peut-être là justement pour apporter plus un discours de la méthode. C'est comment faut-il regarder les choses. Donc on est moins dans une approche normative que dans une approche compréhensive des problèmes économiques. Et essayons de voir comment, quelles lunettes on peut chausser, quelle boîte à outils on peut utiliser pour dire des choses sur les territoires. Alors, une petite carte, alors une très jolie carte faite par Mathieu Lee. Le dernier modèle à la mode, donc ce que j'essaie de déconstruire dans l'ouvrage, c'est le dernier modèle à la mode sur cette existence d'effet taille qui ferait que les territoires de grande taille auraient une croissance économique plus forte. Donc là, la carte que vous avez, c'est une carte qui est faite à l'échelle des zones d'emploi. Donc en France, il y a 304 zones d'emploi en France métropolitaine. Et ce qui est représenté, il y a un jeu de couleurs. Le jeu de couleurs représente le taux de croissance annuel de l'emploi entre 2001 et 2013. Donc c'est des cartes que j'ai fait, enfin qui ont été faites hein, sur différents jeux de données. On a toujours à peu près les mêmes résultats. Hein. Donc là, c'est de la donnée entre 2001 et 2013. Donc vous voyez les territoires les plus dynamiques, qui sont en vert. Les territoires les moins dynamiques, voire qui voient l'emploi décroître en fait sur la période, sont plutôt en bleu. Alors bleu foncé, hein, c'est les plus décroissants. Et puis l'autre information qui est représentée sur la carte, c'est la taille des territoires. Donc les cercles sont proportionnels au nombre d'emplois à la date initiale sur la période d'étude. Et donc le discours un peu prégnant, encore une fois, c'est un discours qui est porté par certains chercheurs. Donc j'ai parlé de Laurent Davy, il y a aussi des chercheurs comme Philippe Martin, qui est plus économiste, hein, qui est au cabinet, qui a été... au cabinet de Macron quand il était ministre, qui est un peu dans les équipes autour de Macron actuellement. qui s'appuie sur d'autres types de recherches que celles portées par Davzi. Ces gens-là, donc c'est des chercheurs qui font des choses intéressantes par ailleurs, parce qu'après, il y a aussi toute cette discussion-là, hein, entre ce que disent les chercheurs et comment c'est récupéré par le politique. Et souvent, dans le transfert, il y a une simplification des discours ou des conclusions, et ça. Mais en tout cas, ça imprègne un peu pas mal des politiques récentes. Donc leur discours, c'était bah oui, plus un territoire est grand, plus il va être dynamique parce qu'il va bénéficier de ce qu'on appelle certains économies d'agglomération, des effets masse critique, des effets taille, etc., etc. Et donc le petit exercice, alors avec dans l'ouvrage, j'insiste pas trop, ça c'est la phase déconstruction de notre recherche. C'est est-ce que ce type de discours résiste à l'épreuve des faits ou pas? Cette carte-là, elle montre que non en fait. C'est-à-dire que si vous regardez les zones. On a des zones dynamiques et on voit que c'est des ronds de petite taille et de grande taille. Donc on a des zones de grande taille dynamique, des zones de grande taille peu dynamique. Effectivement, hein, les agglos de Bordeaux, Toulouse, Nantes, Rennes, par exemple, sont très dynamiques, il n'y a pas de souci. On a des zones de grande taille moins dynamiques, Strasbourg, Nice, Lille, hein, par exemple, sont des agglos moins dynamiques. Et puis surtout, et ce que les chercheurs regardent assez peu, c'est qu'on a des territoires de plus petite taille qui sont très dynamiques et des territoires de petite taille qui sont aussi non dynamiques. Donc on a testé de plein de façons différentes cette relation-là. Est-ce que la taille des territoires compte dans leur dynamique? On ne trouve jamais de relation significative, statistiquement significative. Et là, sur la carte, c'est flagrant. C'est pour ça, enfin, je l'avais fait autrement et en travaillant avec Mathieu, donc il a proposé cette visualisation-là, et je trouve que c'est très parlant. Bah, en fait, c'est super dynamique sur tout le littoral, quoi. Hein? Et puis dans le sud-est de la France, puis Rhône-Alpes, avec un dynamisme très fort aussi à la frontière suisse, par exemple. Et puis on a d'autres territoires. D'autres grands espaces un peu macro-régionaux qui sont très peu dynamiques. Bon, ce qui est frappant, c'est plus ça que la taille des territoires. Hein? Alors, il n'y a pas que ça qui compte. Après, je l'évoque assez vite dans le chapitre. La taille ne compte pas. Encore une fois, on a testé sur données INSEE, c'est-à-dire ensemble des activités économiques. On a testé ça sur les données ACO, c'est-à-dire simplement sur l'emploi privé. On a testé ça avant la crise, après la crise, sur une plus longue période. On n'a jamais trouvé de relation statistiquement significative entre la taille des territoires et leur dynamisme en termes de création d'emplois. En revanche, on a des effets macro-régionaux, notamment, encore une fois, le littoral, etc., pour des raisons que j'évoquerai un petit peu après. Ce qu'on observe aussi très fortement, c'est des effets de spécialisation. Ce qui compte, c'est moins la taille des territoires que sur quel type d'activité elles sont positionnées. La spécialisation compte. Mais la spécialisation peut être favorable sur des espaces de petite taille ou de grande taille. C'est pas lié à la taille initiale des territoires. Et puis on a aussi ce qu'on trouve aussi dans pas mal de, quand on teste pas mal de données, on a des effets, ce que j'appelle des effets d'inertie. C'est-à-dire, si on regarde ce qui se passe après la crise et avant la crise, on s'aperçoit que les territoires qui marchent bien après la crise, c'est souvent des territoires qui marchaient bien avant la crise. Et ceux qui marchent mal après la crise, c'est aussi ceux qui marchaient mal avant la crise. Et ça, alors c'est pas toujours vrai, ça veut pas dire que rien ne change hein, dans la dynamique des territoires, mais ce que ça montre, c'est que la géographie elle présente une assez forte inertie. Et de faire bouger les trucs, faire bouger les dynamiques, c'est dur. C'est un travail, c'est du changement structurel qu'il faut. Et c'est pas simple, et ça prend du temps. Et donc il faut des politiques de long terme qui s'interrogent sur qu'est-ce qu'on peut faire. Et en tout cas, pour infléchir très fortement les dynamiques, c'est particulièrement compliqué. Hein. Donc ça, c'est l'objet du premier chapitre, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille depuis pas mal de temps, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé donc avec mon collègue de Toulouse, Michel Grossetti. C'est un travail de déconstruction. Mais déconstruire, c'est bien, mais ça a aussi ses limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, OK, bon d'accord, c'est pas la question de la taille qui compte, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui compte? Et puis, OK, s'il faut pas chercher le modèle générique de développement économique, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Et donc, le deuxième chapitre, c'est un peu le discours de la méthode, où j'insiste pas mal, mais assez dès le début de l'ouvrage, sur l'idée de dire, oui, effectivement, il n'y a pas de territoire condamné, notamment de territoire, c'est du rural, c'est de la ville moyenne, donc c'est foutu, c'est de la grande ville, donc tout va bien. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. On a une vraie diversité des territoires, qui ne se limite pas à la diversité des tailles de territoire, hein, c'est la diversité des contextes macro-régionaux, c'est la diversité des spécialisations. Et ce qu'on peut apporter donc, C'est moins, encore une fois, quelles sont les bonnes recettes pour créer de l'emploi et des richesses que comment regarder les choses. Alors bon, ça, c'est un schéma autour duquel on a échangé pas mal avec les collègues, on a travaillé sur les territoires. Qu'est-ce qu'il faut regarder ? Qu'est-ce qu'il faut regarder pour comprendre un peu les territoires ? Je ne vais pas développer outre mesure, c'est développé dans l'ouvrage, mais notre façon de regarder les choses, c'est quand même peut-être aussi une des spécificités, c'est d'entrer par les entreprises, c'est de rentrer par l'activité, enfin entreprise, par l'activité économique. Ne pas regarder les territoires dans leur ensemble. Parce qu'encore une fois, les logiques de spécialisation, elles sont prégnantes et elles comptent beaucoup, beaucoup. Donc ce qu'on fait, c'est repérer, ça aussi c'est des parties pris méthodologiques, mais c'est repérer les activités qui pèsent un peu plus sur les territoires qu'on analyse qu'ailleurs. Ce qu'on appelle les secteurs clés. Par exemple, sur le plateau de Millevaches, bah oui, ce qui ressort, c'est pas mal d'activités autour de l'agriculture, pas mal d'activités autour de l'exploitation du bois, forêt, meubles, et puis aussi pas mal d'activités autour de tout ce qui est hébergement, santé, action sociale pour personnes âgées, personnes handicapées, etc. Bon. On a des secteurs qui ressortent. Forcément, sur Belfort-Montbéliard, on va avoir beaucoup de choses autour de l'automobile et puis autour de la filière énergie. Donc on rentre par là, c'est-à-dire on rentre par quelles sont les activités qui sont plus présentes à tel endroit qu'ailleurs. Et puis au-delà des secteurs d'activité, ce qu'on cherche à identifier, c'est plus dur parce que statistiquement on n'a pas nécessairement les bases, c'est quelles sont les ressources mobilisées par les acteurs pour fabriquer ces produits-là. Les ressources, ça peut être des ressources matérielles, immatérielles, humaines, des ressources privées, des ressources publiques, des ressources naturelles, etc., etc. Voilà, rentrer par ce qui est plus présent ici qu'ailleurs. C'est un parti pris méthodologique parce que l'idée, c'est de se dire si c'est plus présent ici qu'ailleurs, c'est peut-être qu'il y a une raison, quoi. C'est peut-être que les acteurs sur ces territoires-là ont réussi avec le temps à se construire une espèce d'avantage comparatif. Et donc, ça vaut le coup de savoir un peu comment ils sont positionnés aujourd'hui et puis qu'est-ce que ça veut dire pour leur développement demain. C'est un parti pris méthodologique parce que quand on travaille avec des institutions, parfois la commande c'est pas ça. Mais moi après je dis je sais pas faire ce que vous demandez parce que parfois la commande c'est nous ce qu'on a envie c'est les signaux très faibles là, les trucs qu'on voit pas mais qui vont peser très très fort demain. Et là je dis mais on est un peu démunis par rapport à ça et que ça peut avoir du sens surtout quand on voit comment évoluent les territoires quand même de se focaliser sur ce qui pèse un peu plus. Parce que peut-être demain ce sera pas exactement ça, mais ça va quand même nourrir de quoi demain ce territoire-là sera fait. Hein. Donc on rentre par les entreprises, on identifie un peu les activités qui pèsent plus sur les territoires qu'ailleurs. Et puis là aussi, c'est un point qui me semble important. Ce qu'on fait tout de suite, et je développerai un tout petit peu après, c'est s'interroger sur comment sont positionnées les entreprises sur tel territoire, mais pas simplement sur leur petit territoire, mais à l'échelle mondiale, dans leur secteur. Je vais le développer après, mais ce qui est important de comprendre, c'est que les entreprises, elles sont positionnées dans des chaînes de valeur qui dépassent très très largement leur territoire. Et donc, il faut savoir comment elles sont positionnées. Qu'est-ce qu'elles font ? Est-ce qu'elles sont positionnées en coût ? Est-ce qu'elles sont positionnées en qualité ? Qu'elles font des choses plus différenciées ou pas ? J'illustrerai aussi un petit peu avec quelques exemples. Donc on regarde ça, qu'est-ce qu'on fait sur les territoires, à partir de quelles ressources, comment on est positionné par rapport à ses concurrents, ses partenaires, ses sous-traitants. Et puis après, l'idée, c'est de dire y a quand même quatre blocs là. Ce qu'on appelle dans l'ouvrage des opérateurs de changement qui peuvent affecter un peu les territoires. Donc on a des chocs macroéconomiques, des chocs qui frappent toute l'économie, mais souvent ces chocs ils sont asymétriques. Un gros choc, par exemple, sur l'industrie, ça va affecter plus les territoires spécialisés dans l'industrie. Vous voyez l'idée, c'est-à-dire on peut avoir des chocs globaux, mais qui vont affecter plus certains territoires que d'autres. La crise 2008, l'effet que ça a eu, c'est que ça a impacté avant tout les secteurs industrie de biens durables, plus la construction. Donc les territoires spécialisés sur ces activités-là, ont plus souffert que d'autres. L'autre élément qui peut impacter les territoires, c'est la mobilité des acteurs. J'en dirai deux mots un peu après, parce que ça fait l'objet aussi d'un chapitre, ces comportements de mobilité. Même si parfois on a tendance à surestimer, c'est ce qu'on dit aussi un peu dans l'ouvrage, la mobilité des acteurs, malgré tout ça compte pour certains territoires. Les actions de la puissance publique, parce que là aussi j'en redirai deux mots en conclusion, parce que on a une transformation très forte du mode d'intervention de l'État. Mais sur tous les territoires, ce qu'on observe, c'est comment l'État au sens large, la puissance publique à tous les niveaux hein, et reste important en France, quoi. Reste très très important en France. Et puis le dernier facteur de changement qui est très fort, enfin quand on fait l'histoire des territoires, c'est la capacité des acteurs sur les territoires à recombiner les ressources dont ils se nourrissent. Encore une fois, le fait qu'un territoire fabrique tel produit, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les ressources sous-jacentes. Et les territoires les plus résilients, c'est ceux qui, quand ils sont spécialisés sur un secteur et que le secteur va mal, sont capables de remobiliser les savoir-faire, les compétences, etc., pour aller vers d'autres secteurs qui mobilisent les mêmes compétences, mais qui vont mieux, eux. Hein, là aussi, je pourrais en dire deux mots. Donc, bref, tout ça pour dire que bon, c'est un peu plus complexe que simplement de dire la dynamique économique dépend de la taille du territoire. Mais c'est pas non plus infaisable de développer des grilles qui permettent de saisir un peu mieux la complexité finalement des dynamiques territoriales. Et avec ça, on balaye quand même tout un ensemble de sujets. Et il nous semble qu'on arrive à voir un peu mieux ce qui se passe sur les territoires. Alors, donc voilà, c'est premier chapitre en gros l'idée, hein, déconstruction des discours un peu dominants. Deuxième chapitre, c'est bon, bah, ok, on a déconstruit ça, mais donc comment analyser les territoires? Et puis ensuite, c'est traiter trois thématiques complémentaires. Donc une thématique, c'est sur justement la mondialisation. La mondialisation qui impacte tous les territoires, en fait. Alors tout ne relève pas, et toutes les transformations qu'on a dans le système économique ne sont pas dues à la mondialisation. On a des choses qui relèvent du changement technologique, on a des choses qui relèvent de l'évolution des comportements de consommation, etc. etc. Mais l'idée selon laquelle on aurait des territoires dans la mondialisation et des territoires hors mondialisation, elle ne tient pas la route, en fait. Sur tous les territoires, on voit des entreprises qui sont en prise avec de la concurrence un peu à toutes les échelles, d'autres qui en sont assez préservées. Hein. On a un peu un mix des deux. Mais chaque territoire est un petit bout de petit monde, quoi. Et ce que je dis, alors c'est une des difficultés pour les acteurs publics qui doivent intervenir, c'est que si chaque territoire est un petit bout de petit monde, ça veut dire que pour comprendre un petit bout de territoire, c'est l'ensemble du monde qu'il faut comprendre, quoi. C'est comprendre ces logiques globales, ces logiques sectorielles globales. C'est comprendre, voilà, je parlais, j'en dirais deux mots, agriculture sur le plateau de 1000 vaches, bah oui, on est en concurrence avec des agriculteurs polonais, irlandais, autrichiens, je pourrais développer l'exemple tout à l'heure. Il faut comprendre le positionnement des éleveurs du plateau de 1000 vaches par rapport à leurs concurrents pour savoir ce qu'il y a à faire pour améliorer leur situation. Hein. Et ça, bah, ça suppose d'aller sur le terrain. J'aime bien cette petite citation là, d'Eric Orsena. Là, voilà, voyage au pays du coton. Il y a une économiste américaine aussi, Suzanne Berger, qui avait fait un ouvrage qui a été publié en France au Seuil en 2005 qui s'appelle « Made in Monde ». C'est pareil, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle regarde simplement comment on fabrique un produit, c'est quoi les différents composants, où ils sont fabriqués, par qui et pourquoi. C'est aussi ce qu'on essaie un peu de faire en allant sur le terrain, parce que ça, on n'a pas de base de données hein, qui nous explique ça. Hein. Alors, ces petits bouts de petits mondes, là, c'est de plus en plus important, parce que alors, je prends une première image et j'en aurai une deuxième appliquée à un terrain, que j'ai enfin, une photo qui est assez sympa. Ce qu'on observe, c'est que pour fabriquer les produits, de plus en plus, les entreprises décomposent les processus productifs. On a ce qu'on appelle la fragmentation des processus productifs. Et là, vous voyez, c'est un Boeing 787 Dreamliner. C'est un écorché de Boeing, en fait. Hein, écorché de Boeing. Et on regarde chaque composant, où est-ce qu'il est fabriqué. Dans la façon de voir traditionnelle des économistes, on disait, bah, comme ce Boeing est assemblé aux États-Unis, ensuite il est exporté dans différents pays, on le labellise en gros « Made in USA ». Mais en fait, les économistes aujourd'hui disent ben non, mais ça va pas ça. Parce que, ok, il est assemblé, l'étape finale, c'est aux États-Unis, mais il y a tel composant qui est fabriqué en Corée, en Suède, au Japon, etc., etc. En fait, on va fabriquer chaque composant là où c'est le plus avantageux, soit pour des raisons de coût, soit pour des raisons de compétences. Et donc, ce produit, on ne peut pas le labelliser vraiment Made in USA. C'est un produit Made in Monde. Hein, c'est le titre de l'ouvrage de Suzanne Berger. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Et alors, c'est pas vrai pour tous les produits, mais pour de plus en plus de produits, on a ces logiques-là. Donc, on a une fragmentation des processus productifs. On va produire là, soit où c'est moins cher, parce qu'on a besoin de réduire les coûts sur certains composants, soit là où les compétences sont, en fait. Et quand je dis que beaucoup de territoires sont des petits bouts de petits mondes, c'est ça. C'est qu'on participe à la fabrication de tel ou tel composant à tel ou tel endroit sur nos territoires. Et ça concerne tous les territoires, y compris ceux auxquels peut-être on s'attend le moins, Plateau de Mille Vaches. Plateau de Mille Vaches, donc ça c'est une photo qu'on avait récupérée, enfin moi que je trouve assez super. Donc c'est des grumes de bois, hein, de la forêt qui ont été abattues et qui sont chargées dans un container. Donc vous voyez, China Shipping, hein, ça va monter sur les super containers et ça va être exporté en Chine pour qu'on fabrique des meubles à partir du bois de la forêt du plateau de Mille Vaches. On peut s'interroger sur la pertinence, hein, de ce petit bout de chaîne de valeur. Est-ce que ça a du sens ou pas? Pas forcément. Il y aurait sans doute des façons plus intéressantes de valoriser cette ressource naturelle du plateau de Mille Vaches, mais n'empêche que, ben oui, c'est aussi un petit bout de petit monde, quoi. Hein, et aussi sur le plateau. Donc c'est pas du tout un territoire hors mondialisation. Hein. Toujours sur ce territoire-là, l'autre exemple intéressant, c'est ce qu'on a observé dans le domaine de l'agriculture. Donc en fait, Plateau de Mille Vaches, c'est beaucoup des éleveurs, je crois que c'est à plus de 60%, de broutards, des éleveurs de broutards. Donc c'est des veaux qu'on élève quelques mois, 8 mois. Ensuite, on les exporte en Italie. On les engraisse encore une année. Et une fois qu'ils sont engraissés, on les abat, on les découpe, on les prépare, on les réimporte en France. Et quand je vous disais que les éleveurs du plateau de Mille Vaches ils sont exposés à la concurrence, oui, en gros, la bête est vendue, je crois, c'est 1 000 euros par tête quand c'est donc pour les broutards élevés sur le plateau de Mille Vaches. C'est du 800 euros quand c'est fait en Autriche et en Irlande, de mémoire, et on tombe à 600 euros quand c'est fait en Pologne. Concurrence en coût. Et cette activité-là, d'élevage quelques mois du broutard, ce n'est pas une activité à très forte valeur ajoutée. Et donc la demande adressée par les producteurs italiens pour le bétail élevé dans le plateau, elle diminue. Voilà. Donc comment on fait pour se repositionner? Et donc là, la question, c'est plus est-ce que le plateau de Mille Vaches, c'est un petit territoire, un grand territoire avec beaucoup. Non, c'est quel est le positionnement des éleveurs? Et est-ce qu'on peut modifier ça? Est-ce qu'on peut améliorer le positionnement? Et alors là aussi, ce qui est aussi assez intéressant quand on va sur le terrain, c'est de regarder aussi les solutions que les acteurs essaient de mettre en place. Et donc sur le plateau de Mille Vaches, on a deux projets pour essayer de rapatrier de la valeur ajoutée. Premier projet, ça consiste à dire, plutôt que d'aller engraisser les broutards en Italie, on va les engraisser sur le plateau. Et donc on va créer un centre d'engraissement. Donc c'est la ferme des mille veaux. Et donc tollé, socialement, environnementalement, du point de vue environnemental, est-ce que c'est vraiment bien, etc. Donc... il y a eu un petit incendie, enfin, on a brûlé des bâtiments sur le plateau, enfin, des gens qui contestaient un peu ce projet-là. Du point de vue strictement économique, ce n'est pas stupide, hein. C'est rapatrier de la valeur ajoutée. Mais ça pose d'autres questions, d'autres problèmes. Mais c'est une façon de réfléchir à comment on peut se repositionner dans les chaînes de valeur. Puis un deuxième projet qui pose beaucoup moins de problèmes, hein, on va créer un pôle viande local, en fait. Donc on va passer des contrats avec les éleveurs et puis on va leur proposer un abattoir et puis des ateliers de transformation de la viande. Et puis ça va être vendu en circuit court auprès des collectivités, des cantines, etc. ou même des habitants du plateau. Donc mais dans les deux cas, la question c'est bien ça. C'est comment on peut notre positionnement n'est pas très intéressant dans la chaîne de valeur. La concurrence monte. Comment on peut se repositionner pour rapatrier de la valeur ajoutée et donc après derrière de l'emploi ou stabiliser l'emploi, voire le développer. Hein. Donc voilà, c'est l'idée, c'est de développer un peu autour de ça. Dans le chapitre d'après. Alors c'est des choses sur lesquelles on avait moins travaillé, sur lesquelles j'ai pas mal travaillé sur dans le cadre de cet ouvrage, c'est sur la question de la mobilité, ou même je dirais un peu plus généralement aussi sur le lien démographie-économie. C'est pareil, enfin mon sentiment à force de travailler sur les territoires, c'est que les dynamiques économiques sont très liées aux dynamiques démographiques, et on oublie de faire de la démographie avant de faire de l'économie, quoi. À tel point que presque j'ai envie de dire, si vous voulez connaître la dynamique économique future des territoires, regardez simplement comment évolue la population, puis c'est bon, vous avez la réponse. Alors pour preuve, ça c'est le graphique sur les territoires sur lesquels on a travaillé, où je crois sur ce graphique la croissance de la population, donc là c'est sur la période 99-2012, en abscisse et puis en ordonnée la croissance de la population active occupée. Donc c'est l'emploi au lieu de résidence des gens qui travaillent, quoi. Vous voyez que les points là, ils sont assez bien alignés. Donc là, c'est juste quelques points, mais je l'ai fait pour l'ensemble des zones d'emploi en France. On a un super fort coefficient de corrélation. Pour ceux qui connaissent un peu ce que c'est que ça, on est à du 0,90, quoi. En gros, la variation de la population explique, je mets des gros guillemets, c'est une corrélation, il n'y a pas de causalité, mais je vais en dire deux mots après, explique près de 90% de la croissance de la population active occupée. En gros, quand la population augmente, les gens qui bossent sur le territoire, ça augmente d'autant, ça tire la dynamique économique. Donc vous voyez que là, c'est assez hétérogène sur le territoire. Donc on a des territoires qui souffrent. Alors on n'est pas très loin de zéro, puis ça dépend des périodes qu'on étudie, là, mais autour du plateau de Millevaches, quand même, ça souffre un peu plus. Guéret-Ussel. C'est pas. J'évoque les travaux là, de Laurent Rieutor, un géographe de Clermont-Ferrand, je crois, qui a publié des travaux très intéressants sur la dynamique comparée territoire très, très peu dense, dense, très dense, sur la période récente. Et ce qui montre, en fait, c'est que les territoires peu denses ou très peu denses, ils ont plutôt une dynamique sympa sur les dernières années, mais qui est la combinaison de deux choses. D'une évolution d'un solde naturel plutôt négatif, parce que c'est des populations quand même qui sont en moyenne plus âgées sur ces territoires-là, donc on fait moins d'enfants, donc la dynamique naturelle est moins bonne, mais qui est plus que compensée par une très bonne dynamique migratoire, en fait. Donc on a du solde migratoire positif qui vient plus. Alors sur Ussel-Guéret, ça n'empêche pas quand même une tendance un peu à la baisse sur la dernière période, mais c'est vrai que sur le plateau de Millevaches, c'est ce qu'on observe. Croissance naturelle faible, mais on a 1000 habitants chaque année qui viennent s'installer sur le plateau de Millevaches. Beaucoup viennent d'Île-de-France. Des gens un peu en rupture du capitalisme, on en a marre de ce monde urbain, dense, etc. On veut élever nos enfants à la campagne, et donc on vient s'installer sur le plateau. Parfois, ça va produire de la conflictualité, on a observé ça aussi sur le plateau, entre les néo-ruraux et puis les pas partout, mais par moments, ça peut faire un peu des clashs, parce que la représentation que les néo-ruraux ont du monde rural n'est pas trop conforme à celle des populations locales, mais bon. Et puis on a des territoires assez dynamiques, donc notamment, alors ce qui peut-être peut vous surprendre, mais Thionville, vous voyez, est dynamique en termes de population. Alors Toulon, Pau, donc là on retrouve un peu l'idée quand même de, la dynamique de la population est très bonne sur tout le littoral, et ça tire quand même de l'activité économique. Thionville aussi, pour des raisons peut-être que j'évoquerai, je vais l'évoquer un peu après, c'est des raisons économie transfrontalière, Lorraine-Luxembourg en fait, qui fait que pas mal de gens veulent se localiser à Thionville. Donc je vous dis, pour l'ensemble des zones d'emploi, on a une très bonne corrélation. C'est vérifié aussi sur les territoires sur lesquels on a étudié. Mais alors, il y a une vraie question qu'on peut se poser, c'est dans quel sens que ça marche, le lien ? Parce que ça peut fonctionner dans les deux sens. Est-ce que l'emploi augmente parce que la population augmente ? Ou est-ce que la population augmente parce que l'emploi augmente ? C'est-à-dire que, est-ce que les territoires où il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer, est-ce qu'ils viennent s'installer parce que c'est là qu'il y a l'emploi ? Ou est-ce que c'est dans l'autre sens que ça marche ? On dit des fois, est-ce que c'est jobs follow people ou people follow jobs, quoi, c'est dans quel sens que ça fonctionne ? Alors, ça fonctionne dans les deux sens. On a des territoires, on le sait, sur le littoral. La population vient s'installer. C'est des retraités qui se disent, on va s'acheter une résidence secondaire sur le littoral. On s'installe, ça fait de la population qui s'installe. Et puis, ça fait de l'activité économique de service à la population qui se développe. Pour répondre. Donc là, c'est plus l'emploi qui suit la population. Mais sur d'autres territoires, si on prend l'exemple de Toulouse, par exemple, Toulouse, on sait bien que c'est une agglomération, notamment spécialisée sur l'aéronautique. Qu'Airbus, ça marche bien, on a vendu plein de petits avions. Donc on crée beaucoup d'emplois, et donc il y a des gens qui viennent sur Toulouse pour travailler dans le secteur aéronautique. Donc ça peut être dans les deux sens. Malgré tout, ce qui me semble, puisque disent d'autres chercheurs, c'est que l'emploi suit la population, ça devient de plus en plus prégnant. Alors un petit élément de preuve que j'explique un peu dans l'ouvrage, c'est en m'appuyant, alors pareil, on pourrait en dire des choses sur cette décomposition, elle n'est pas sans poser problème, mais un petit élément de preuve, c'est quand on regarde la structure très globale de l'activité économique en France. L'INSEE propose une distinction entre ce qu'on appelle l'emploi dans les secteurs présentiels, l'emploi présentiel et l'emploi productif. En gros, pour faire simple, l'emploi présentiel, c'est toute l'activité qui est développée pour la population présente localement sur le territoire. C'est les commerces, c'est votre boulanger, c'est les médecins, etc. Toute l'activité pour servir la population présente localement. Et l'emploi productif, c'est plutôt de l'activité qui est développée, mais pas forcément pour vendre aux personnes présentes, ça peut être pour exporter à l'autre bout de la planète. Hein. Quand on regarde la composition de l'activité, enfin de l'emploi en France sur assez longue période, vous voyez, là j'ai les chiffres pour 1975 et ensuite pour 2013, qu'est-ce qu'on observe ? Ben, on observe que ce qui devient de plus en plus important, ce qui pèse de plus en plus dans l'économie française, c'est l'emploi présentiel. Pour plein de raisons qui sont liées en partie à la mondialisation, puisque vous voyez que l'emploi productif, là, on passe de 10 millions à 8,8 millions. Hein, donc ça, c'est quand même aussi la concurrence. Mondialisation, concurrence pour l'économie française, quand on regarde dans le détail, c'est beaucoup moins la concurrence des pays à bas coût, de la Chine, etc., que la concurrence des pays développés de niveau de développement comparable. Mais ça, bon, ben voilà, ça transforme la structure. Et ce qui augmente très fortement, parce que vieillissement de la population, parce que évolution des besoins de consommation des personnes, etc., c'est l'emploi présentiel. On passe de 10,8 millions à 16,9 millions. Donc l'emploi présentiel, bah, typiquement là, c'est si la population se développe, bah, tout cet emploi présentiel, il va se développer autour de là où la population est. D'accord ? Donc cette transformation de la structure productive de l'économie française, c'est plutôt un élément de preuve qui va en faveur de la thèse. Ben oui, si la population augmente sur votre territoire, dans ce cas-là, il y a de l'emploi qui va se développer plus fortement qu'ailleurs pour répondre à ses besoins d'activité présentielle. Un autre point qui est évoqué dans ce chapitre aussi, c'est pareil, c'est pour réinterroger aussi certaines choses ou montrer, réintroduire un peu de complexité aussi dans la dynamique des territoires. C'est un croisement entre taux de chômage à l'échelle des zones d'emploi et taux de croissance de l'emploi. Parce que le taux de chômage, il est beaucoup observé, c'est commenté très régulièrement par nos politiques, etc. Bon, c'est une variable qui nous dit des choses, qui a plein de limites. Et une de ces limites, quand on regarde les choses à l'échelle géographique, c'est que se dire quand sur un territoire on a beaucoup de chômage, ça veut dire qu'on n'arrive pas à créer de l'emploi, c'est totalement faux. En fait, ça c'est une petite typologie là sur ma carte. Bon, je ne sais pas si c'est très visible. Où on croise le taux de chômage, donc de mémoire, c'est en 2012. Et le taux de croissance de l'emploi, ça doit être sur du 2001-2012. Et on a des zones avec un faible chômage et une faible croissance. Donc des taux de chômage faibles. Alors c'est en partie ce qu'on retrouve sur certains espaces autour du plateau de Millevaches. Le taux de chômage est faible en fait. Le taux de chômage est faible. Mais on crée peu d'emplois, voire l'emploi peut diminuer. Donc ça en fait, c'est caractéristique de territoires qui sont plutôt en déclin ou juste stabilité démographique. Donc le chômage est faible, c'est pas forcément un signe de bonne santé économique. C'est qu'en fait, les gens qui cherchent de l'emploi, ils savent que ça va être dur d'en trouver là où ils sont, donc ils vont prospecter ailleurs. Et puis on a d'autres territoires où le chômage est faible et la croissance est forte. Donc là, c'est les territoires qui vont le mieux. Donc on retrouve autour de Nantes, Rennes, enfin voilà, sur cette partie-là. On retrouve aussi, il y a des effets frontières assez forts là, Rhône-Alpes, proche de la Suisse là. Donc là, ça va bien, le chômage est faible et on crée beaucoup d'emplois. Et puis après, on a deux ensembles de territoires. Alors là, les codes couleurs font que ce n'est pas forcément ultra visible. On a des zones à fort chômage et à faible croissance. Donc là, c'est ceux qui vont le moins bien. On a beaucoup de chômage et on crée très peu d'emplois. Et ça, c'est typique notamment des zones du nord de la France, en fait. Donc là, ça souffre. Et on a d'autres zones à fort chômage, mais à forte croissance. Et si on regarde que les taux, pour le dire autrement, si je vous avais montré la carte des taux de chômage, taux de chômage très fort, c'est autour du pourtour méditerranéen et dans le nord de la France. Mais avec cette décomposition, on s'aperçoit que c'est des zones qui ne sont absolument pas dans la même situation. Dans le nord de la France, on a beaucoup de chômage et on crée peu d'emplois, voire on en détruit. Alors qu'autour du pourtour méditerranéen, on a beaucoup de chômage, mais on crée beaucoup d'emplois. Alors c'est vrai sur le pourtour méditerranéen, c'est aussi vrai un peu sur le littoral picto-charentais, Rochefort, La Rochelle, là, on est un peu dans la même configuration. On crée de l'emploi, mais il y a beaucoup de chômage. Une partie de l'explication, c'est parce qu'on crée de l'activité aussi saisonnière. Donc on a des gens qui vont bosser 6 mois, qui vont être 6 mois au chômage. Donc quand on regarde le taux de chômage moyen sur l'année, on a ça. Et puis comme c'est des zones attractives, parfois on a du chômage que certains qualifient de chômage d'attraction. C'est-à-dire il y a un couple, on va s'installer sur le littoral, il fait meilleur, c'est plus sympa, etc. Mais l'un trouve un boulot et l'autre pas. D'accord ? Donc ça peut aussi expliquer ça. Donc c'est introduire un peu ces éléments-là sur, dans ce chapitre. C'est la question de des comportements de mobilité et puis insister sur les liens démographie-économie. Hein. Et puis bien sûr, alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette diapo-là, bon c'est pas grave. Oh si, ça pouvait aussi remarquer. Sur les comportements de mobilité, ce sur quoi on insiste beaucoup parce que c'est très structurant, notamment pour la Lorraine. La mobilité, c'est aussi la mobilité temporaire. La Lorraine, qui a beaucoup souffert de la crise de la sidérurgie, qui a détruit beaucoup d'emplois, en fait, elle a été sauvée d'une certaine manière. Pas forcément le plus par l'investissement qu'a mis l'État Peugeot, Renault, allez vous installer en Lorraine et réemployer les personnes. Elle a beaucoup été sauvée par le Luxembourg, en fait. Hein, c'est toujours le chiffre qui est tellement saisissant qu'à chaque fois je le mentionne. Hein. En Lorraine, on a en gros 900 000 actifs, des personnes qui bossent, qui résident en Lorraine. Il y en a 10%, enfin on est à plus de 100 000 maintenant, hein, 100 000 qui résident en Lorraine et qui travaillent au Luxembourg tous les matins. Ils traversent la frontière pour aller au Luxembourg. Hein. Et donc c'est vraiment le poumon économique de cette région-là. Et ce qu'on mentionne dans l'ouvrage, c'est que on voit bien que c'est ça la problématique à traiter sur ce territoire-là. Le problème à traiter en Lorraine, c'est pas de dire il faut que Metz et Nancy aient le statut de métropole. Ils se sont bagarrés, ils l'ont obtenu, bon très bien. Mais l'enjeu économique majeur, c'est pas ça. C'est comment on régule, comment on gère cet espace transfrontalier. Parce que forcément, quand vous avez 100 000 personnes qui traversent la frontière tous les jours, ça fait des effets de congestion. En plus, c'est essentiellement des gens, c'est à 85% des gens qui prennent leur voiture pour aller de l'autre côté de la frontière. Effet de congestion. Et puis aussi, ça fait des gros effets. Alors, tout à l'heure, il y avait le chiffre sur Thionville. Hein, vous avez vu, croissance de la population assez forte, etc. Ça fait monter le prix du foncier, qui est estimé à Thionville à plus de 2500 euros le mètre carré, ce qui est bien supérieur au prix du mètre carré ailleurs en Lorraine. Hein. Et puis c'est des habitants qui résident à Thionville, qui bossent au Luxembourg, mais qui sont en attente de services publics, qui veulent des crèches, des halles de des services pour leurs enfants, pour eux-mêmes, etc. Sauf que les communes n'ont pas les ressources financières pour, parce que c'est des gens qui bossent au Luxembourg, qui payent leurs impôts sur le revenu au Luxembourg, etc. Donc là, il y a des vraies problématiques à gérer pour ces territoires-là. Qui nous éloigne totalement de savoir est-ce que c'est des petits territoires, des grands territoires. Non, c'est ça, c'est comme ça, c'est ça la vie économique, elle tourne autour de ça sur ces territoires. Voilà les problèmes que ça pose. Donc quelle réponse politique il faut apporter pour mieux les gérer, hein. Et puis le dernier chapitre, c'est pour insister sur le poids de l'histoire, sur le poids de l'histoire. Alors ça, c'est des choses qu'on avait observées à chaque fois. On trouve ça, quand on avait travaillé sur Châtellerault, voilà, on avait trouvé ça. Sur le nord de Sèvres, on avait trouvé ça. Et là, sur beaucoup de territoires, on voit un peu à quel point l'histoire compte. Et là, c'est aussi un défaut, sans doute, souvent des économistes, c'est de ne pas regarder suffisamment l'histoire. Parce que c'est ultra structurant. Et quand je dis le poids de l'histoire, des fois, ça joue à des centaines d'années, quoi. Hein, c'est pas juste les 5 ou 10 dernières années. Alors une petite façon de, bon, ça, je veux pas trop vous embrouiller ou rentrer dans les choses trop complexes, mais l'histoire compte. Mais encore une fois, j'insiste sur ça. Quand on regarde la vie économique des territoires, ce qui compte, c'est moins ce qu'on fabrique que ce qui sous-tend les produits qu'on fabrique, les ressources mobilisées. Et on peut avoir une petite typologie comme ça. On peut se dire dans certains cas, on fabrique des produits. Pour ça, il faut utiliser des ressources à peu près semblables, à peu près similaires. Donc, une entreprise, elle peut fabriquer l'ensemble du produit. C'est pas compliqué. C'est le même type de ressources. J'ai ces ressources-là. Je fabrique l'ensemble du produit. Et puis parfois, pour fabriquer un même produit, il faut un ensemble de ressources dissemblables. Il faut des compétences très différentes. Pour fabriquer une automobile, aujourd'hui, il faut des compétences en termes de motorisation, en termes de carrosserie, en termes d'électronique embarquée, etc. etc. Et donc ça suppose des savoir-faire, des machines, des processus productifs assez différents. Et donc, faut qu'on se divise le travail entre nous. Tout à l'heure, je parlais avec l'écorché du Boeing, là, hein, de cette fragmentation des processus productifs. Elle est très liée aussi à ça, que pour fabriquer des produits de plus en plus complexes, il faut utiliser des ressources et des compétences de plus en plus différentes. Et donc, une même entreprise pourra de moins en moins fabriquer l'ensemble du produit. Et donc, on a des logiques de division du travail, qu'on peut qualifier de division cognitive du travail. Après, on a une entreprise qui peut dire, tiens, je vais m'embarquer dans la fabrication de nouveaux produits en utilisant d'autres ressources. Donc ça c'est un peu la préhistoire ça existe de moins en moins. C'est des entreprises qui sont dans des stratégies qu'on qualifie de diversification conglomérale. C'est-à-dire je m'engage dans un nouveau produit en mobilisant des compétences que j'ai pas, mais je vais les acheter et puis ça le fera. Hein. Ça c'était assez typique des modes d'organisation des entreprises pendant les 30 Glorieuses, des grosses boîtes qui faisaient des trucs dans plein de secteurs différents, avec l'ouverture des frontières, la montée de la concurrence, etc. etc. Ça marche de moins en moins. On est de moins en moins capable parce qu'on ne peut pas faire face à la concurrence en coût ou en qualité des autres entreprises. Et puis, il y a cette catégorie-là qu'on retrouve sur pas mal de territoires. C'est les stratégies de diversification cohérente. Donc, c'est vraiment ça, ce que je vous ai déjà expliqué, c'est on est spécialisé sur certains produits, je mobilise des compétences, je sens que ça ne va pas trop bien dans mon secteur, et donc je vais aller dans un autre secteur, mais en continuant à mobiliser les ressources que j'ai accumulées avec le temps. On retrouve ce type de stratégie de diversification cohérente sur de nombreux territoires. Dans ce chapitre-là, je refais un peu l'histoire de deux territoires, la Lorraine d'un côté, et puis Pau, la zone de Pau sur laquelle a travaillé Marie de l'autre. Sur Pau, on a vraiment ça. Avec là quelque chose d'assez remarquable, parce que rare en France, c'est la capacité des politiques d'avoir un peu anticipé les choses, ce qui était très prévisible, mais dans d'autres cas, c'est prévisible, mais on n'anticipe pas pour autant, puisque Pau a vécu pas mal de l'exploitation du gisement de lac, qu'on savait qu'à un moment donné, le gisement serait épuisé. Et donc, dès le départ, déjà, il y avait des ressources financières qui étaient fléchées pour dire, on va mettre, je ne sais plus, c'était tant d'euros par... mètres cubes de gaz extrait, enfin bref, pour commencer à anticiper la reconversion. Et donc, on a eu alors des politiques publiques, des entreprises, Total a beaucoup fait aussi pour ça, où on s'est dit, on va quand même continuer à mobiliser nos savoir-faire, mais on va aller vers de la chimie fine, on va aller vers la chimie verte, etc. Donc, on se repositionne sur d'autres activités en remobilisant, et on anticipe ça. Hein. Et sur beaucoup de territoires sur lesquels on a travaillé, dans le cadre de cette étude ou d'autres, on s'aperçoit que c'est vraiment ça la clé de la réussite, quoi. C'est cette capacité à anticiper les mutations et pas se dire je fais table rase du passé, mais se dire au contraire je m'en nourris pour aller voir ailleurs et reconquérir des parts de marché plus intéressantes dans d'autres activités qui mobilisent ces ressources-là. Donc c'est un travail un peu de fourmi hein, de refaire l'histoire de ces activités économiques, mais ça permet d'apprendre quand même beaucoup de choses. Et puis donc je reparle un petit peu, là c'est mon graphique que j'aurais pu mettre avant, c'est un petit graphique qui illustre un peu l'évolution de l'économie lorraine. Je vous explique, il y a trois courbes. Cette courbe là c'est l'évolution de la population en Lorraine. Alors qu'a évolué moins favorablement qu'en France, parce que passer ses vieux jours, acheter une résidence en Lorraine, ça tente moins que d'aller dans le sud-est de la France sur le littoral atlantique, mais ça évolue un petit peu. Mais surtout, ce qu'on voit, et donc c'est très en lien avec l'économie transfrontalière, c'est l'évolution de l'emploi. Donc le nombre d'emplois localisés en Lorraine, qui augmente jusqu'à 75, puis là c'est le début de la crise sidérurgique, on licencie des dizaines de milliers de personnes, hein. Et donc l'emploi baisse jusqu'aux années 90 en fait. Après ça repart quand même plus favorablement, hein. Puis là ça rebaisse un peu depuis la crise on pourrait dire. Mais donc ça c'est le nombre d'emplois présents en Lorraine, hein. les postes de travail si vous voulez qui sont présents en Lorraine. Et l'autre courbe, hein, c'est les actifs occupés, donc c'est les gens qui habitent en Lorraine, mais qui travaillent soit en Lorraine, soit ailleurs. Et ce qu'on observe, c'est que certes, avec la crise de la sidérurgie, ça a baissé, mais la tendance est quand même moins négative, et que surtout, ça a redécollé très fort après. Et donc ça, là, qu'est-ce qui se cache derrière cet accroissement très fort des actifs occupés ? Ben, c'est le développement de l'économie luxembourgeoise. Le Luxembourg a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et donc on fait appel, et ce n'est pas que dans l'industrie financière, hein. C'est aussi des gens dans le secteur, par exemple, médical ou paramédical, dans tout un ensemble, dans l'industrie aussi, enfin dans tout un ensemble d'activités économiques. On fait appel à la population, notamment de Lorena. Donc là aussi, on a ces choses qui sont un peu masquées quand on regarde les choses de manière un peu trop... Si on a travaillé sur la Lorraine, c'est aussi pour ça. Souvent, même les cartes que je vous ai présentées, vous avez vu, on fait des cartes et en fait, on a l'impression que la France est une île, quoi. On ne voit pas qu'il y a des frontières et des choses qui peuvent se passer. Bon, et ça a été aussi pour ça qu'on voulait travailler là-dessus. Parce que quand on regarde effectivement les stats sur l'évolution de l'emploi présent dans le Grand Quart Nord-Est, ça ne va pas bien. Mais quand on regarde dans l'État, ah bah oui, mais c'est qu'il se passe des choses pas très loin, en fait, hein, juste à côté. Voilà. En conclusion, pour résumer peut-être, enfin, dans la façon dont on regarde les choses, et qui font qu'on ne les regarde pas toujours bien. Là, je proposais de résumer ça par ça, c'est ce que cachent les frontières, en fait. Ce que j'essaie d'expliquer en conclusion, c'est que, bah oui, la réalité est complexe, donc on a besoin de la réduire. Réduire la réalité, ça veut dire qu'on va faire des catégories, on va faire des paquets, on va ranger les choses dans les cases, on va comptabiliser ce que vaut chaque case, etc. Bon. Mais le problème, c'est que bah, les frontières qu'on a dressées sont un peu obsolètes. On a des frontières de plus en plus floues. Les frontières entre entreprises, je vous ai dit fragmentation des processus productifs, on travaille entre entreprises à différentes échelles, etc. Les frontières entre secteurs. On reste trop marqué en France par la distinction industrie-service, par exemple, qui n'a pas de sens, qui n'a plus de sens. Et on fait comme si... Pourquoi ? Parce que les entreprises de l'industrie elles travaillent de plus en plus avec des entreprises, des services aux entreprises. On externalise ça, on fait appel à elles. Et la performance, par exemple, d'un industriel, Airbus, Peugeot, Renault, elle est très liée aussi à la performance des services aux entreprises auxquelles ces entreprises font appel. Donc la distinction industrie-service, franchement, il faudrait vraiment l'oublier. Ça masque beaucoup de choses. Les frontières entre territoires aussi. J'ai parlé du cas emblématique de la Lorraine, mais c'est pas que là. Les systèmes économiques traversent les territoires. Et quand on interroge les acteurs en charge du développement économique, on s'appelle encore là sur Saint-Jean-d'Angély, c'était ça. On leur demande vous êtes interrogé ce que vous pourriez faire avec Royan, Cognac, Rochefort. Non. En fait, chacun reste trop enfermé dans son périmètre, oublie de regarder toutes ces interdépendances et puis les opportunités qu'il pourrait y avoir à justement traverser un peu, enfin faire de plus d'interterritorial. Et puis les frontières publiques privées aussi sont de plus en plus floues. Je l'ai dit tout à l'heure rapidement, je peux développer un tout petit peu, mais une des choses qui nous a fasciné avec Pascal sur Belfort-Montbéliard, c'est les nouvelles façons de... Enfin, les interventions un peu cachées, en fait, hein, de la puissance publique. Parce que sur Belfort-Montbéliard, les entreprises passent à industrie du futur. On a besoin de s'organiser autrement avec les fournisseurs, les sous-traitants. Donc on a besoin de nouveaux établissements et puis des choses qui puissent être évolutives. Et puis on ne veut pas gérer ça en direct. Donc on va faire appel à une société d'économie mixte qui va gérer tous nos problèmes. Et puis on va lui dire, ah ben maintenant, c'est plus tel fournisseur, c'est tel autre qui doit venir là, etc. Donc on a beaucoup d'interventions, beaucoup d'aides, beaucoup de choses, etc., qui sont faites par le public. Et puis des choses qui sont peut-être moins visibles, mais qui sont très importantes, hein, pour l'évolution des organisations des entreprises, et qui peuvent poser question aussi, hein, parce que l'évolution qu'on observe, c'est quand même que la puissance publique prend en charge de plus en plus de choses, hein, que le privé avant prenait en charge. Mais c'est parce que, bah oui, concurrence entre les territoires, il faut bien défendre nos boîtes, et etc., etc. Donc là, il y a aussi des... En tout cas, la frontière floue. Hein. Je l'ai déjà dit, je le redis. Bon, ça, en gros, c'est un petit résumé des différentes idées de l'ouvrage. Hein. Je crois assez que, enfin, ce qu'on fait, et je pense que ça permet quand même d'éclairer autrement que ce que font d'autres chercheurs, un peu notre spécificité, c'est rentrer par les entreprises. Et donc, c'est... refuser d'essentialiser les territoires, de se dire, voilà, un territoire de petite taille, ça va évoluer comme ça, de grande taille, de le regarder comme des c'est dire, non, on va rentrer autrement, avec une approche plus micro ou par secteur, Et puis, bah, c'est vrai. Enfin, même on s'en est. Enfin, moi, à un moment donné, je m'en suis rendu compte. Bah, en fait, on se pose pas la question de la taille du territoire, quoi. Bah non, en fait, on se pose la question de l'entreprise. Est-ce qu'elle est compétitive ou pas? Est-ce qu'elle est positionnée en coût? Est-ce qu'elle est positionnée en... Est-ce qu'elle est bien différenciée? Et qu'est-ce qui l'empêche de mieux se différencier, etc. Et je crois qu'on, enfin, ça permet d'apprendre beaucoup de choses, quoi. Et d'agir de manière peut-être plus conforme à. Enfin, en tout cas, plus pertinente, me semble-t-il, en termes de développement économique. Et puis enfin, bon, mais voilà, hein, je vous l'ai déjà dit, insister vraiment sur le poids de l'histoire, de la démographie et sur les actions de la puissance publique. En gros, il faudrait que les économistes fassent un peu moins d'économie, un peu plus d'histoire, un peu plus de démographie, un peu plus de géographie. On aurait peut-être une vision un peu plus intéressante de la dynamique des territoires, me semble-t-il. Peut-être une autre petite idée. Donc voilà, j'insiste aussi là-dessus. Hein. Voilà, c'est penser ce qui relie plus que ce qui sépare. Mais c'est pas simple. Alors si, c'est, je veux pas non plus stigmatiser. Pourquoi est-ce qu'on fait ? Parce que c'est super compliqué. Parce que déjà on n'a pas les données, quoi. Enfin, on n'a pas les données, on n'en a pas assez. Penser ce qui relie, ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait des données sur les flux. Et on manque de données, on a des données par zonage, etc. Donc, penser ce qui relie, c'est compliqué. Quand je vous montre l'écorché du Boeing, etc., bon, les chaînes de valeur, on n'a pas de données là-dessus. Mais c'est très compliqué. C'est juste en allant sur le terrain, en interrogeant les boîtes, on peut faire remonter de l'info qualitative. Donc c'est vraiment pas simple. Et peut-être pour finir tout à fait, en termes de, puisque je termine là, par action de la puissance publique, peut-être un des enseignements transversaux de l'étude qu'on a menée, c'est que les politiques qui sont le plus importantes pour le développement économique, ce n'est pas des politiques de développement économique, en fait. Parce qu'on cloisonne aussi à mort dans les institutions. Hein. C'est beaucoup, sur tous les territoires, on a rencontré des problèmes de gestion du foncier. Gestion du foncier forestier sur le plateau de Mille Vaches, gestion du foncier industriel sur voilà, de aménagement de l'espace, des espaces pour les entreprises sur Belfort-Montbéliard. Gestion, voilà, aussi, donc ces effets de congestion à la frontière lorraine. Sur Toulon, gros problème, c'est une zone attractive qui est un peu enfermée. Enfin, les limites un peu naturelles géographiques font qu'on ne peut pas s'étendre partout. Et il y a des retraités qui veulent acheter des résidences. Et on a des industries qui veulent se développer, qui veulent plus de foncier industriel. Et on a des commerces pour la population qui veulent se développer. Comment on gère ça ? Donc, sur tous les territoires, on a ces problèmes donc qui relèvent plus d'une problématique de politique d'aménagement. Et puis, sur tous les territoires aussi, on rencontre des problèmes qui relèvent des politiques de formation des personnes. Parce que sur Belfort-Montbéliard, bah oui, c'est sûr que l'industrie automobile a souffert en France. Les entreprises sont en train de se repositionner. Elles embauchent du chercheur, de l'ingénieur, du technicien qualifié, des ouvriers qualifiés aussi. Par contre, ouvriers non qualifiés, on n'en a plus besoin. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là ? Il faudrait mettre de la formation sur elles pour les ramener à l'emploi dans le même secteur ou dans d'autres secteurs. Parce que aussi, par exemple, sur Toulon, il y a l'activité du yachting qui se développe pas mal, hein, parce que voilà, il y a des très riches propriétaires de yachts qui naviguent sur la Méditerranée, qui veulent faire agrandir leur petite piscine là, parce qu'ils trouvent que un mètre de plus ou 50 cm de plus, ce serait mieux. Ils sont prêts à payer des sommes folles pour ça. Il y a des entreprises qui ont certaines, mais qui ont du mal à recruter les personnes qui pourront travailler dans le domaine, etc. Donc c'est peut-être ça, et donc ça invite aussi quand je dis casser les frontières, hein, c'est aussi ça, c'est les frontières entre les domaines d'intervention de la puissance publique. C'est arriver à travailler beaucoup plus en transversal. Et puis se dire que quand on réfléchit à des problématiques de formation, on réfléchit à quelque chose qui est au cœur du développement économique des entreprises. Que ce n'est pas du truc à part ou annexe, où on fait du social pour former les gens. Quoi. C'est vraiment la ressource humaine est quand même la ressource au cœur, hein, de la création de richesses. Voilà, je vais arrêter là. J'espère que j'en ai pas trop dit, que ça a été un peu à peu près clair, que ça vous a donné envie de lire le livre. Et puis, bien sûr, bah, après, s'il y a des questions ou des interrogations, n'hésitez pas.
Il fonctionne. Donc voilà, la parole est à la salle. Est-ce qu'il y a des questions, des compléments ? Merci.
Je vais bien aujourd'hui prendre des notes parce que j'ai plein de choses. Donc Christophe Rambillière, élu à Grand Angoulême aujourd'hui, ancien conseiller régional aussi. Dans votre discours, vous dites que les élus simplifient beaucoup les études que nous faisons. Vous dites aussi que c'est très complexe. Donc vous êtes chercheur, vous trouvez ça très complexe. Alors nous, en tant qu'élus, vous écoutez, c'est vrai qu'on trouve ça aussi très complexe. Et forcément, on simplifie dans la mise en œuvre de tout ça. Et néanmoins, dans votre discours, j'ai beaucoup aimé le fait que vous disiez que certains territoires aient anticipé. Alors, être élu, c'est aussi, c'est surtout anticiper et préparer l'avenir. Moi, je suis très inquiet, au-delà de la taille des territoires, j'ai le sentiment qu'il y a aussi un problème d'image des territoires et d'attractivité du territoire qui n'est pas forcément lié à l'attractivité économique ou à la population. Mais on a beaucoup de jeunes aussi aujourd'hui dans les territoires ruraux qui disent « mais moi, je reste pas ici, je travaillerai pas ici, j'ai plus d'ambition ». Les familles n'ont plus d'ambition non plus pour leurs enfants. On le voit au niveau scolaire un petit peu partout. Et donc, le fait que les enfants, les familles n'aient plus d'ambition, les enfants n'aient plus envie de rester là, que le peu qui arrive, qui réussissent, partent à l'extérieur, fait que forcément, ces territoires vont être en déclin, quoi qu'il arrive, dans les années qui viennent, et que de plus en plus, ces gens-là sont attirés par des territoires qui semblent attrayants, que sont les métropoles ou l'étranger.
Bah, donc là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a ça sur certains territoires, ce que vous dites, mais sur d'autres, pas du tout, en fait. Encore une fois, c'est plus complexe. C'est-à-dire que l'opposition rurale-urbain, c'est pareil, c'est une autre catégorisation qui n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'on a des territoires ruraux qui attirent la population, qui attirent des gens, qui attirent des jeunes, des cadres, etc. Sur la période la plus récente, là, ce que montrent les chiffres de Laurent Riotor, c'est que, alors bien sûr, par exemple, les cadres sup, ça pèse plus dans l'urbain que, voilà. Parce qu'après, bon, il y a d'autres, bon, mais peu importe. Mais sur la période récente, les taux de croissance les plus forts pour ces catégories-là, c'est dans l'espace dit rural, en tout cas les espaces à faible densité. Donc, factuellement, je peux pas vous suivre. Enfin, vous voyez, je peux pas vous suivre dans l'idée de dire, ah ben, le rural, les gens veulent pas. Non, c'est plus complexe. Il y a des territoires ruraux qui sont dans la situation que vous mentionnez, d'autres pas du tout. Et on a des territoires urbains qui attirent pas. Hein. Il y a et d'autres qui attirent. Ce que montrent certaines recherches, certains travaux, etc. Sur la, c'est pareil. Moi, je suis assez critique sur tous les discours sur l'attractivité. Il faut attirer de. Enfin, tout dépend de ce qu'on entend par attractivité. Il faut attirer de l'extérieur, c'est comme ça qu'on va se sauver. Donc, on va faire du marketing territorial, on va communiquer, on va dire que c'est trop beau chez nous, venez, venez. Quand on étudie, ce que pas mal de chercheurs ont fait, quand on étudie les comportements de mobilité des personnes, notamment qualifiées, voire très qualifiées, les raisons du fait pourquoi est-ce qu'elles sont là, pourquoi est-ce qu'elles sont venues là, ces questions de marketing territorial, ça compte pas en fait. Ce qui compte, c'est pourquoi je bosse là, parce que je suis né là ou parce que j'ai ma famille ici. Donc il y a beaucoup de sociologie qui compte. Et puis l'autre, c'est parce que c'est là que j'ai trouvé du boulot. Et donc on surestime beaucoup quoi, cette question de l'attractivité. Modulo le fait, rendre une ville agréable, en fait, c'est moins l'objectif, ça devrait être moins pour dire je vais attirer de l'extérieur que dire je vais donner envie aux gens qui sont là d'y rester. Donc c'est plus l'aspect ancrage, oui, il a du sens. Hein, ancrer les gens, leur donner envie de rester, je me sens bien, etc. Mais ils vont pas venir là parce que y a une jolie plaquette de présentation de telle ville. Je serais très nuancé là-dessus. Hein. Après sur le fait quand vous disiez dans l'ensemble des travaux, je veux jamais stigmatiser un élément du corps social. Donc les politiques, je sais bien qu'ils font aussi ce qu'ils je pense qu'en fait ils sont quand même parfois un peu démunis parce que le monde est complexe aussi, hein, ça c'est sûr. Et donc le travers en France, me semble-t-il, c'est oui quand même de dire de chercher le modèle quoi. En tout cas quand on fait l'histoire, mais c'est pas qu'en France, mais en France c'est quand même très prégnant. Quand on fait l'histoire des politiques de développement économique sur les territoires, c'est quand même une succession de modes basées plus ou moins sur de la recherche en sciences sociales, plus ou moins bien faite, etc., etc. C'est quoi l'alternative ? Moi, ce pourquoi je plaide, c'est pour dire, sur un territoire, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'action publique ? On peut rien dire avant d'avoir analysé précisément ce territoire-là. Il faut analyser, donc faut travailler. Le travail qu'on commence là, je pilote un travail pour le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, là, donc pour la data régionale. Hein. C'était un peu ça l'objectif. C'est le Conseil régional qui dit, bon, bah, ok, on va devoir signer des contrats avec les territoires, etc. On va bosser avec eux forcément. Avant de savoir ce qu'on va faire, on aimerait bien tester avec vous une autre façon de regarder les territoires, voir un peu les problématiques qu'on identifie, et ensuite que ça guide un peu l'action publique. Et autant les politiques, sur certains aspects, ont pris conscience de l'importance de la recherche, avec tous les soutiens, pôle de compétitivité, tout l'investissement qui est mis dans les sciences dures, etc. etc. Autant, je pense qu'ils sous-estiment ce que peut apporter la recherche en sciences sociales pour éclairer l'action publique. Et je trouve que l'initiative, donc indépendamment de toute question partisane ou quoi, l'initiative du Conseil régional de dire on a besoin de créer une espèce de data régionale, c'est-à-dire en s'appuyant sur les chercheurs, pour mieux comprendre ce qui se passe sur les territoires et donc ensuite pour mieux agir dessus, ça me semble une bonne démarche qui permet de sortir des effets de mode et de modèle. Quoi. Voilà, en tout cas, il y a des choses à faire. C'est pas simple. Et puis, on n'est pas, encore une fois, on n'est pas là pour dire il faut faire... Non, mais c'est... En fait, moi, il me semble que ce qu'on arrive à faire quand on va bosser sur les territoires, c'est dire c'est ça les sujets sur lesquels il faut creuser. On déblaye un peu le terrain. Dire là, il y a un sujet là. Sur le plateau de Millevaches, il y a un sujet avec la gestion du foncier forestier. Sur la Lorraine, il y a un vrai sujet sur comment on régule cette économie transfrontalière, etc. Et déjà, ça permet d'orienter un peu la réflexion du politique qui après fera ses choix, mettra les moyens qu'il veut, où il veut. Quoi.
D'autres questions ? Plus d'intervention, chacun réfléchit.
Juste pour suivre sur ce que dit Olivier par rapport à la DATAR, terme qui est peut-être pas très modeste, mais qui se veut un outil au service des territoires dans cette région Nouvelle-Aquitaine, avec effectivement cette volonté de penser différemment, de traiter les territoires non pas de manière égalitaire, de voir leur diversité pour essayer de répondre à une stratégie qu'ils pourraient construire en ayant fait au préalable un diagnostic, alors que qui est fait dans certains territoires vulnérables que fait Olivier et Emmanuel, et avec d'autres où on est en train de faire des diagnostics territoriaux avec les territoires et non plus basés comme on a pu le faire pendant des années sur les stocks, mais sur les flux, c'est-à-dire cette approche de présence, enfin d'économie présentielle, de mobilité et de population liée à la démographie. Donc, j'ai l'impression qu'on suit un peu les conseils du livre, et ça me rassure pour le futur schéma d'aménagement et d'égalité des territoires qu'on commence à élaborer dans la région et qui, lui aussi, va mêler à la fois toutes les politiques d'aménagement du territoire, mais à la demande du président, s'appuyer aussi sur tout ce qui est développement économique, formation, c'est-à-dire que ça va être un vrai projet régional d'aménagement. On le souhaite. J'ai quand même une question par rapport aux écrits. Alors personnellement, cette fois-ci, l'autre jour, je lisais ce qu'écrivait France Stratégie. Donc est-ce qu'il y a des moments de débat avec France Stratégie ? Parce que, alors je me fais l'avocate du diable, mais une de leurs dernières... de leur dernière petite production, merci Olivier, c'était de dire que vivre dans une métropole, c'est plus de chances pour travailler, que Bordeaux-Toulouse, c'est 22% de l'emploi en France, que les collectivités les plus branchées sur les flux de la mondialisation sont les métropoles. Est-ce que c'est ce discours qui, en fin de compte, est véhiculé par France Stratégie ? Et du coup, comment est-ce qu'on peut... puisque nous, on va travailler aussi l'an prochain avec France Stratégie. Est-ce qu'il y a des lieux, un moment de débat pour confronter ces positions différentes divergences
Moi, j'avais été auditionné avec Michel Grossetti. On avait été auditionné par France Stratégie, là, qui avait commencé un travail justement sur la métropolisation. Ils nous avaient auditionnés. On avait présenté les choses. J'ai rediscuté récemment avec... Alors, je ne sais pas si c'est cette note-là. C'est Frédéric Lenné qui avait fait une... Ouais, donc avait fait une note aussi sur les métropoles. Alors, avant de nous auditionner, ils étaient métropolisation à fond, quoi. Il n'y a que ça qui compte, hein. C'est trop, trop bien, voilà, quoi. Ils nous ont auditionnés, ça les a conduits un tout petit peu à évoluer, un tout petit peu. Ils sont, c'est peut-être un peu plus complexe que ça. Mais après, il y a des... moi, j'avais échangé, ça m'avait énervé, une des dernières notes, là, de Frédéric Lenné, c'était... Encore, parce qu'après, il y a des problèmes aussi de méthodologie, mais ils font la moyenne par taille d'aire urbaine. C'est un peu technique ce que je dis, mais pas tant que ça quand même. Ils font la moyenne par tranche d'aire urbaine. Et ils montrent que les 12 premières plus grandes aires urbaines françaises ont un taux de croissance moyen supérieur aux autres. Sauf qu'à chaque fois, je leur dis, mais ça n'a pas de sens de travailler sur les moyennes, parce que votre paquet de grandes aires urbaines, il y en a qui sont très dynamiques. Prenez Montpellier, Toulouse, etc. Ça tire. Mais si vous regardez dans le détail, Saint-Etienne, ce n'est pas le cas. Rouen, ce n'est pas le cas. Lille, ce n'est pas le cas. Strasbourg, ce n'est pas le cas, etc. On ne peut pas travailler sur les moyennes quand on a justement des dispersions fortes. C'est de la méthode stat seconde, quoi. Enfin, je ne sais pas, quoi. C'est le truc de base. Et mais comme ça va dans le sens de leur croyance, ils continuent. On a beau leur dire, non. Donc ça, c'est compliqué. Hein. Après, il y a des questions. Je sais que l'auteur de la note m'a dit, de toute façon, c'est filmé, là, faut pas que je dise ça. Pisani-Ferry, il trouvait que ça insistait pas assez sur les métropoles dans la note. Faudrait insister un peu plus. Après, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. France Stratégie, c'est pareil. Hein. Moi, j'avais été aussi auditionné pour d'autres sujets. Ça pose la question aussi du jacobinisme et du centralisme français. C'est quand même qu'on a des instances de réflexion, de conseil au pouvoir central, quoi, très parisien, quoi, très très parisien. Et puis on va rarement de l'autre côté du périphérique, et on a une très mauvaise connaissance de. Mais des fois, des gens de qualité, c'est pas le problème. Mais quand on n'est pas confronté à autre chose ou à d'autres discours, Et ça peut être un effet. Enfin, moi, j'espère. Ça peut être un effet positif de la réforme des régions. Hein. Si on a des plus grandes régions qui se dotent de capacité à produire des études qui propose un autre point de vue, etc., ce serait pas mal. Après, je sais que suite aux travaux qu'on avait fait avec Michel Grossetti, il y a pas mal la Caisse des dépôts, Alternative économique, enfin, il y a 4-5 institutions, les Journées de l'Écho à Lyon aussi, avaient voulu faire un débat entre nous et Davzi, qui a toujours refusé. Hein. Il y a aussi ce qui est dommage, hein, parce que franchement, on avance avec la confrontation des idées, parce que dans ce que fait Davzi, il y a des choses intéressantes qu'il fait, il n'y a pas de problème. Mais parfois, c'est compliqué. Hein, Enfin, ça prend du temps. Hein, franchement, avec Michel Grossetti, c'est depuis 2014, ça fait 3 ans quoi, qu'on écrit des trucs. Ça diffuse très, très, très lentement quand même.
Pierre Desson, Partenay. Sur la question démographique, effectivement, c'est un territoire rural comme celui sur lequel je travaille, c'est un enjeu fort, hein, enfin, déjà aujourd'hui. J'ai dit tout à l'heure à Olivier, je vois un chef d'entreprise demain. On connaît son projet, on espère tous qu'il va s'installer chez nous, mais il aura besoin de 60 chauffeurs. On va lui dire, bien sûr, pas de problème, vous nous laissez combien de temps? Sauf qu'on les a pas et on ne sait pas comment on les trouvera, mais il en aura 10, 15, 20, etc. Mais c'est pas satisfaisant. Cela dit, faire venir des populations aujourd'hui, alors je suis d'accord sur l'attractivité, etc. Enfin, bon, ça bricole. Après, il y a quand même sur ces 15 dernières années, enfin, les PLU sont verrouillés, c'est quand même l'État. J'ai appartenu, je ne peux pas construire un lotissement, c'est fini. Le périurbain s'est développé de manière monstrueuse, mais pas dans ces villes-là. L'espace est consommé par d'autres, enfin, très, très clairement. Et je peux mettre. Enfin, j'ai une petite comparaison, il se trouve, pour des considérations tout à fait personnelles, mais j'ai une partie de famille qui habite dans le nord d'Angleterre. Et là-bas, ils ont ce phénomène inverse. Alors, la terre, c'est pas la même histoire, ça n'a rien à voir, mais très concrètement, ils ont une ville qui s'appelle Carlisle qui se développe trop vite, avec du chômage, etc. Ils ont verrouillé l'urbanisme là-bas. Et là où habite mon ami, Penrith, c'est une ville, allez, 20 000 habitants, c'est Bressure à peu près. Ils ont mis 900 logements en accession à la propriété. Le truc est plein. 40 km hein, d'écart. On aura beau dire, hein, pour une ville, l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui. Mais ça emmène malgré tout une dynamique, quoi. Et ça, aujourd'hui, on a pas du tout ces effets leviers-là. Enfin, c'est l'État encore qui décide. Hein. Ou alors, il faut qu'on puisse justifier, mais quelle est la demande ? Ben, y a pas de demande. Enfin, voilà, enfin, on s'en sort pas. Mais parce que je pense qu'effectivement, c'est clairement poussé, parce qu'autour des agglomérations, le périurbain se développe. Il y a quand même une volonté marquée. Et je pense que c'est effectivement le fait métropolitain là, qui s'affiche très concrètement. Quoi.
C'est très structurant. Hein. Enfin, ça sous-tend beaucoup pour de mauvais. Après, c'est le problème, hein, c'est que le discours peut être performatif hein, parfois aussi. Hein. C'est-à-dire que si tous les politiques sont convaincus que l'avenir, c'est les métropoles et qu'on met tout l'investissement dessus, à un moment donné, bon, c'est ce qu'on dit avec Michel Grossetti, quoi. Oui, on va mettre un milliard sur Saclay, bah oui, ça va marcher, vous inquiétez pas. Hein. Mettez un milliard où vous voulez, à un moment donné, bah oui, ça va faire des choses. Hein. Donc bon, donc c'est ça, c'est le danger. Hein. Alors là, juste pour revenir sur France Stratégie, là où ils évoluent, mais Davy aussi évolue comme ça, c'est de dire bon, oui, c'est les métropoles, mais maintenant il faut qu'on fasse en sorte que ça ruisselle. Hein, on va essayer. Et ce que je dis en fin d'ouvrage, parce que c'est quand même un constat quand on regarde où ils sont les savoir-faire les plus anciens en France. Enfin voilà, les compétences, savoir-faire, l'histoire. Ils sont souvent hors métropole. Et c'est pour ça qu'il faut, penser en complémentarité. Il ne s'agit pas, ce que je dis aussi souvent, hein, si le discours national c'était l'avenir de la France et la ville moyenne, on serait aussi critique. Hein. C'est dire, c'est pas le sujet, quoi, en fait, hein, notre propos. Hein. Il y a beaucoup de savoir-faire qui sont plutôt dans des espaces non métropolitains ou hors métropole. Les métropoles ont un rôle de comment dire, un peu de hub hein, quand même, hein, pour après les valoriser, trouver des marchés, etc., etc. Mais donc, quand on réfléchit sur où sont localisés les savoir-faire, à la limite, qui dépend le plus de l'autre, j'ai envie de dire, les métropoles dépendent tout autant de ces autres territoires où on a des compétences accumulées dans le temps très long. Hein, donc, ce truc de dire tout va jouer en termes d'innovation et de création, etc., dans quelques grandes métropoles, et après, faisons en sorte que ça ruisselle pour dédommager un peu les autres petits territoires, ça n'a pas de sens. Enfin, je pense qu'on pourrait totalement inverser la logique. Et se dire, c'est plutôt les métropoles qui ont intérêt à se dire, bon, en fait, on s'appuie et en fait, ce qu'on fait, c'est valoriser et transmettre les compétences qui sont développées ailleurs hors métropole. Quoi. Même le terme de métropole, bon, là, je ne développe pas, puis je ne le dis pas trop dans l'ouvrage, mais ça, en fait, ça existe. On ne sait pas ce que c'est, quoi, une métropole, hein, déjà. Hein. Ça pose problème. Mais bon.
Juste.
Et non pas la dynamique des espaces. Et donc, je voudrais savoir eh bien, quel sens vous mettez derrière le mot territoire. Est-ce que c'est le sens géographique ? Si ce n'est pas le sens géographique, quelles difficultés avez-vous pu rencontrer pour mener des études statistiques, par exemple ? Parce que le territoire, il va jusqu'où ? Est-ce que c'est cette question, est-ce que je pense que vous l'êtes posée, mais est-ce que c'était important ou comment vous avez abordé la question ?
Ouais, c'est une. Oui. Alors, statistiquement, on est obligé de s'en remettre à des découpages qui existent quand on bosse sur les stats, hein, sur les territoires au sens large. Dans l'ensemble des territoires, dans l'ensemble des découpages qui existent, celui qu'on mobilise le plus, c'est plutôt le découpage par zone d'emploi, parce que ça repose quand même sur un critère de définition un peu économique. Enfin bon, il faut qu'on ait, voilà, c'est en gros beaucoup de personnes qui habitent et travaillent dans la zone, plutôt que sur d'autres découpages. Enfin, c'est une des premières raisons, c'est parce que c'est un découpage pas simplement administratif, il y a quand même un critère économique. Et l'autre raison, c'est que quand on brasse les stats, etc., on s'aperçoit quand même les spécialisations, justement, ça se joue à des échelles fines, c'est pas à l'échelle des nouvelles régions, ni à l'échelle des anciennes régions, ça se joue à des échelles plus fines. Et zone d'emploi, c'est pas mal pour ça. Après, les statistiques, ça n'éclaire qu'une petite partie de ce qu'on peut appeler un territoire. Après, justement, nous, on en sort, quoi. Après, on rentre par l'activité. Donc, on va identifier telle zone d'emploi. L'activité qui prédomine, c'est telle activité. Puis ensuite, on va rencontrer les entreprises et on regarde un peu leur comportement d'achat-vente, leurs fournisseurs, leurs sous-traitants. Et on essaie de reconstruire un peu des petits bouts de chaîne de valeur, de comprendre un peu les ressources qu'elles mobilisent, etc. Donc, on reconstruit un peu ce qu'on peut appeler des territoires économiques, on va dire. Hein. Mais voilà. Après, sur les termes, en plus, il y a Yves qui est là, géographe. Moi, je me souviens, il y a pas mal d'années, on s'était dit, c'était avec le labo, je ne sais plus, c'était avec Migrinter à l'époque, ou peu importe. Ça veut dire, ce serait bien qu'on travaille ensemble. Ah, bah, ok. Bah, on va faire une première réunion de recherche. Puis, ah, bah, tiens, on va discuter sur ce qu'on entend par territoire. Je crois que c'était ça. Bon, une heure et demie de discussion stérile. Parce que chacun a. Bon. Et depuis, enfin, ce que je dis, ça, j'en suis totalement convaincu, c'est que faire de l'interdisciplinaire, du transdisciplinaire, il ne faut surtout pas commencer par se dire. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot ? Parce qu'on s'étripe au bout de 10 minutes, on n'arrive pas à se comprendre. Je pense que le meilleur travail transdisciplinaire, c'est plutôt de dire, prenons un même objet d'étude et chacun va l'éclairer à sa façon, va dire comment il le voit, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il peut en dire, quoi. Donc, voilà.
Juste, moi, je voudrais réagir par rapport à votre dernière présentation, là. Donc, je m'appelle Roland Chabou, je suis un ancien directeur régional de la Caisse des dépôts. Et qui est devenu ensuite directeur des stratégies territoriales à la Caisse. Donc à l'origine de ce qu'on appelle maintenant les diagnostics territoriaux à la Caisse, l'idée de se dire qu'on devait agir différemment en fonction des territoires, selon l'endroit où on se situait quand on était à la Caisse des dépôts. Et bon, ça m'intéresse beaucoup de savoir, j'ai une réaction et une question par rapport à ce qui est écrit là. La première réaction, c'est quand vous dites des frontières floues, moi, j'ai l'impression un petit peu que les frontières, il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, quand on est dans une entreprise, quand on est une collectivité, quand on travaille sur un territoire, les frontières, ça n'existe plus. Maintenant, là, je lisais, il suffit de lire le journal d'aujourd'hui sur les vins du Haut-Poitou. Ils travaillent avec les vins de Loire, etc. Il n'y a plus vraiment de sens. Dans cette notion de frontière. Ça, c'est une réaction. L'autre question, c'est sur le poids. Quand vous dites insister sur le poids, le poids de l'histoire, je suis d'accord, le poids de l'hémographie, je suis d'accord, les actions de la puissance publique, je suis vraiment d'accord, mais je voudrais vraiment essayer de comprendre, parce que ça, c'était une des difficultés quand on est, comme j'ai été directeur régional de la Caisse des dépôts, c'est quoi la puissance publique quand on est sur un territoire ? C'est l'État ? C'est le département, c'est la région, c'est la communauté de communes, c'est la communauté d'agglo, c'est la commune. C'est quoi ? Qu'est-ce qui est important en matière de développement économique ? Et qu'est-ce qui fait la différence quand on est sur le plateau de Mille Vaches, quand on est à Toulon, quand on est à un endroit ou quand on est à un autre ? Ça, c'est quelque chose qui est difficile parce que quand on veut être en appui justement de ces politiques territoriales, quand on veut les aider, quand on est la Caisse des dépôts, on se dit où je vais porter mon effort ? Si c'est porter mon effort sur l'État, ça n'a aucun intérêt. Puisque, bon, mais quand on dit, est-ce que c'est plutôt du côté de la région, plutôt du côté du département ? La puissance publique, c'est quoi ? Et quel est le rôle, justement, de ces... Comment vous avez pu analyser dans les territoires que vous avez vus le rôle de chacune de ces composantes de cette puissance publique qui est probablement multiforme ?
Alors sur le premier point, sur des frontières, vous dites qu'il n'y a plus de frontières, etc. Bon, peut-être, si, et quand même. Il y a quand même encore des... Alors peut-être, sur quoi faut... Les frontières qu'on a dans la tête, quoi, quand on analyse les choses. Aussi, les frontières... Enfin, le problème, si vous voulez, du décalage entre les frontières administratives ou les frontières des territoires d'intervention des différents niveaux de collectivité, qui ne matchent plus, effectivement, avec une économie qui traverse les territoires. Qui traverse les territoires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de géographie économique, de l'activité économique. Il y a encore une géographie qui existe, qui pèse. Bon, mais ça traverse de plus en plus les territoires. Mais il y a encore des frontières dans la tête, notamment des politiques ou des analyses des territoires. Des grosses et frontières, pas que géographiques, encore une fois. Je suis désolé, tous nos politiques ont en tête encore l'industrie, c'est plus important que les services. Bon, ben, ne serait-ce qu'avoir ça en tête, on rate des trucs. On rate beaucoup de choses. Hein. Donc, y a... Et puis après, même pour malgré tout, les frontières, c'est ce que je disais, c'est quand même la frontière France-Luxembourg. Hein. C'est quand même aussi une frontière. Et ça veut dire quoi, cette frontière ? Ben, ça veut dire que, oui, il n'y a pas d'accord entre l'État français et l'État luxembourgeois pour, par exemple, comme c'est fait avec la Suisse, une partie de l'impôt sur le revenu des frontaliers reviennent aux communes qui hébergent les travailleurs lorrains, les résidents lorrains qui travaillent en Lorraine. Donc là, il y a des choses à faire, et ça, c'est quand même de l'effet frontière. Après, sur les actions de la puissance publique, lesquelles, etc., bah, j'ai envie de dire, ça va dépendre du sujet sur les territoires en question, parce que dans certains cas, ça va être une problématique effectivement d'aménagement assez local. Ça peut être au niveau des agglos que ça joue et qu'il y a des choses à faire. Dans d'autres cas, on a des grosses problématiques de formation des personnes. Dans ce cas-là, ça peut jouer ben voilà, côté région, par exemple, essayer de mettre de la formation sur. Etc. Donc là aussi, je ne suis pas sûr qu'il y ait un niveau, un seul niveau à activer. Ça va dépendre du sujet qu'on observe et puis de voir comment on peut appuyer ou travailler avec tel. Après, alors on l'a vu un peu sur certains territoires. Après, c'est clair qu'il y aurait quand même des marges de progrès énormes aussi en matière de coopération entre collectivités. Hein. On est encore, quand ça a commencé juste sur Belfort-Montbéliard, on avait quand même nos deux agences de développement économique, l'une à Belfort, l'autre à Montbéliard. Donc ils ont fusionné, mais je crois que Pascal, ce que tu disais, c'est que bon, c'était compliqué. Hein. Ça a du mal à... on travaille sur Sainte-Saint-Jean-d'Angély. Bon, ben, entre la ville de Sainte et la communauté d'Aglo, si vous voulez, ça va pas trop bien. Donc si déjà on règle pas ça, on peut rien faire. Donc c'est quel niveau de collectivité, j'ai envie de dire, ça va dépendre du sujet, mais il faudrait aussi que ça collabore, enfin que ça travaille un peu mieux. Alors je sais que derrière, il y a des enjeux de pouvoir, il y a des questions de personnes, etc., etc. Mais il y a des choses à améliorer à ce niveau-là. C'est un autre attendu peut-être positif de la réforme des régions. C'est comme les schémas régionaux sont prescripteurs, qu'on est dans des grandes régions. Il y a des territoires qui commencent à se dire « Ah, faut peut-être qu'on arrête de se faire la guerre là, entre voisins. » Et puis, d'une certaine manière, hein, c'est ce qui s'est passé sur Poitiers, je pense. C'est si on continue à se faire la guerre bêtement, il va falloir aller négocier avec la région Nouvelle-Aquitaine, on va pas gagner. Quoi, hein. Donc, essayons de... Voilà. Parce qu'on a, enfin, je pense que c'est un effet potentiellement positif, ça. Donc, il y a, ouais.
Merci Olivier pour ta présentation. On a au moins appris quelque chose, c'est que c'est pas la taille qui compte ce soir. Donc, on aurait pu le tweeter d'ailleurs, donc c'est intéressant. Donc, trêve de plaisanterie. Sur ton dernier chapitre, la cité sur le poids, il y a un poids, ou alors il est peut-être implicitement dans celui de l'histoire que tu soulignes pas, c'est le poids des managers. Qu'ils soient d'entreprise ou du territoire d'ailleurs, et que je distinguerais des actions de la puissance publique. Il y a des managers publics, qu'ils soient politiques ou techniques, et puis il y a des managers d'entreprise. Et le rôle qu'ils peuvent avoir, moi j'ai le souvenir d'une conférence auquel tu avais assisté là, de Gilles Krag sur ce concept d'hiérarchie, ce manager qui aujourd'hui il est tiraillé entre des invectives de son entreprise qui est en dehors du lieu où il doit agir et où pourtant il est ancré très profondément. Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, quand on fait le diagnostic, insister sur le poids du manager, qui manage à quel temps et quelle est la dynamique qu'il va y avoir, parce que ça influe profondément sur ce qui peut se passer.
D'accord. Alors peut-être, moi je le rangerai, mais bon, peu importe. Enfin, tout à fait d'accord sur cette idée-là. C'est peut-être un peu quand on va étudier fragmentation des processus productifs, des organisations, savoir les établissements présents, est-ce que c'est des établissements indépendants qui appartiennent à un groupe, où est le groupe, et puis effectivement, quelle est la marge de manœuvre en termes de pouvoir de décision sur le territoire ou pas. Et là, on a des configurations assez différentes. Hein. On peut avoir des établissements de grosses boîtes où... le groupe autorise à ce qu'on bosse en local et qu'on essaie de faire des choses. Je me souviens, alors c'était pas dans le cadre de l'étude, mais après j'étais retourné un peu en Alsace sur un des sites, je sais plus si c'était Alstom ou quoi, et où ils essayaient de faire des choses avec les autres entreprises locales. Et puis d'autres où c'est interdiction de travailler en local. Mais je suis d'accord, c'est important. Moi, je le rangerais plus dans l'histoire. Ouais, on a une fragmentation, des organisations un peu différenciées. Et puis, des relations de groupe, des relations, etc. Et donc, quelles sont les marges de manœuvre localement et qu'est-ce qu'on peut faire? Et effectivement, c'est sûr qu'il y a des choses... Enfin, que ça peut être important. Contrairement quand même, parce que des fois, on a des discours sur les territoires, c'est quand on a des entreprises qui appartiennent à des groupes qui ne sont pas en région, c'est pas bien. Et puis, si on a des entreprises indépendantes, c'est bien. Là aussi, je nuancerai fortement parce qu'on sait qu'appartenir à un groupe, c'est, par exemple, ça peut doter de ressources pour l'innovation, ressources financières qui peuvent être tout à fait importantes et décisives.
Bonsoir. Thierry Perrault, je suis conseiller régional dans le Grand Nord, l'Audintoire, là. Et je voulais effectivement renforcer un petit peu vos propos sur les notions d'histoire et de sociologie. Bon, là, ce territoire tout en haut, il est sur trois régions administratives, quatre départements. Et en fait, ce que l'on peut voir, c'est qu'évidemment, ça le handicape probablement par rapport à la réalité du territoire économique ou du territoire de vie des gens. Et des choses qui sont très simples à voir, mais qu'on ne fait pas nécessairement, mais qui sont intéressantes, c'est par exemple de regarder sur les fusils d'état civil comment les gens se marient, avec qui. Alors ils se marient dans une proximité, je dirais, qui est leur territoire. Comment, je dirais, les femmes vont accoucher, dans quel hôpital. Comment, par exemple, un débat très récent, là, qui a deux mois, sur les urgences. Alors, les urgences, on est rattaché à Poitiers, etc., etc. Deux jours après, malheureusement, il y a eu un accident très grave. Les pompiers qui sont intervenus venaient de Chinon, Saumur, Thouars et Loudun, avec l'hélicoptère, etc., etc. Donc, dans une situation d'urgence, on n'a pas regardé la dimension administrative, on a répondu au problème. Et il y a moins d'un an, il y a eu un incendie de forêt à peu près au même endroit. Même configuration. Les gens qui sont intervenus dans la logique territoriale de proximité. Et donc, se priver de ces éléments-là, c'est se priver, je dirais, d'une capacité de répondre économiquement. Ça, c'est une certitude. Et moi, je suis très optimiste sur le fait que ces indicateurs-là, que ce discours est en train de passer. Et la deuxième chose, vous parliez des mouvements de la jeunesse. Donc, c'est assez difficile, je dirais, de contrarier des mouvements un peu naturels. Je dirais un peu dans le grand âge. Moi, j'appelle ça la tentation balnéaire. C'est vrai que c'est plus facile d'aller sur la côte que d'aller dans les terres intérieures. Et pour la jeunesse, il y a le mouvement, il y a les rencontres, il y a l'emploi. Et donc, effectivement, on s'en va de son territoire. Et tous les jeunes s'en vont, d'ailleurs, même quand ils habitent dans une grande ville. Donc, ça, je dirais, il faut un petit peu faire avec. Par contre, ce que je vois, et ça, c'est un phénomène récent, à la taille de mon territoire, avec l'expérience que j'en ai, 35 ans, c'est de voir des gens qui ont la trentaine qui reviennent, avec effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, un ancrage. Il y en a un des deux qui est du coin. Et ils ont du bagage culturel, ils ont du capital économique, ils ont du capital de projet, et ils reviennent là. Et là, il ne faut pas les louper. Il ne faut pas les louper parce que ça reste pas facile, même quand il y a toutes ces conditions un petit peu. On a des gens qui ont vu le monde, donc ils savent en même temps qu'ils ne sont pas attachés. Si ils ont envie de prendre un avion et puis d'aller à l'autre bout, ils pourront le faire. Donc ce ne sont pas des gens qui sont sur des mouvements lents, ils peuvent être sur des mouvements rapides. Donc ils n'ont pas peur d'habiter sur des territoires comme ça, un petit peu dépourvus en apparence. Ils sont porteurs de projets. Et je dirais que c'est ça qui soit capté. En fait, on est sur de la dentelle, quoi, en fin de compte, en termes de construction. Donc les grands modèles, il faut les avoir. Et en même temps, effectivement, il faut être en capacité de repérer comment on fait de la dentelle sur des territoires qui, comment dire, ont cette force, je dirais, du tissu neuronal un peu. Il y a plein de trous, mais un filet, c'est aussi solide qu'un drap, quoi. Ce n'est pas le souci. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire. Et je dirais d'avoir effectivement un regard de développement économique avec la signature des contrats là, qui permet de travailler sur des diagnostics, mais aussi des propositions. C'est une chance inouïe parce que, alors bon, là, c'est un peu entre nous, mais à quoi ça sert les grandes régions ? Au moins, à brasser le bouillon, je dirais. Ça, ce dont je suis sûr, c'est que ça permet de se remettre sur des dynamiques de projet parce que ça dérange les habitudes, bonnes ou mauvaises. Hein. Enfin, c'est pas agréable, forcément, mais bonnes ou mauvaises, les habitudes sont un petit peu brisées et on peut reconstruire des choses. Et dans cette reconstruction, on a une possibilité inouïe peut-être de retrouver le territoire qui est le bon aujourd'hui avec l'activité, quoi. Et effectivement d'arriver à mettre autour de la table, je dirais, du multisectoriel, c'est à ça qu'il faut arriver. Et je pense que les yeux commencent à briller un peu sur les territoires, même les plus fragiles, quoi. Mais faut encourager les dynamiques, en tout cas, qui se font un petit peu comme ça, parce que faut pas oublier qu'en plus, pour un politique, c'est difficile. Il vaut mieux parfois faire comme tout le monde fait, c'est moins risqué. Mais en plus, c'est que il y a du complexe aussi, du complexe à faire une proposition. Parce que malgré tout, on a toujours été gouverné par plus intelligent que soi, par définition. Et donc, en gros, là, de reconstruire ces contrats de territoire, c'est s'autoriser à avoir des idées pour soi qui valent celles du voisin ou celles, je dirais, du centralisateur, quoi. Donc, effectivement, j'arrête là, mais je peux vous dire que le dernier actu là, sur les loges de la diversité, il faut le distribuer en grand nombre, même plusieurs fois aux mêmes personnes parfois. Voilà.
Merci pour la pub. Une dernière question.
À la fois une question, puis peut-être l'idée d'une proposition. Catherine a évoqué France Stratégie, vous aussi. Et c'est vrai que depuis quelques années, de lire France Stratégie, il y a des moments où il y a de quoi vraiment être fâché. Mais le CGET a fait pas mal aussi hein, dans le domaine des modèles, la métropolisation. Ces derniers mois, ils n'ont pas perçu ce que pour le sujet des villes moyennes, donc les élus, toutes les associations d'élus se sont un peu révoltées. Bref, il y a donc manifestement besoin qu'il y ait des publications qui démontrent que la pensée dominante, qui pour moi est d'ailleurs liée à un système libéraux, il faut lire ce les Anglais avaient écrit il y a 35 ans sur le principe de la densification des services, pour comprendre que derrière tout ça, il y a quand même aussi des gens qui y travaillent à ce que les gens se rassemblent sur un même terrain et si possible, N plus 1, N plus 2, N plus 4, N plus 5. Donc est-ce que les régions ne pourraient pas avec... des universités et donc votre unité, faire des publications à l'adresse des collectivités que France Stratégie inonde régulièrement pour montrer qu'il y a d'autres modes de raisonnement ou d'autres modes de travaux, de réflexion possibles et par voie de conséquence d'autres alternatives à un modèle qui est insatisfaisant, en tout cas... Rien ne dit que tout le monde est heureux à Paris et le sera un jour à Bordeaux.
Ben, alors c'est des choses qu'on essaie de faire quand même. Hein. Enfin, donc je disais tout à l'heure, voilà, j'avais été auditionné par France Stratégie, CGET, j'ai beaucoup échangé avec eux. CGET, c'est compliqué, c'est la fusion de deux choses. Hein. Ça se bagarre en interne hein, parce qu'il y a des gens. Là, ils ont publié un bouquin là sur emploi et territoire qui est plutôt intéressant. Enfin. Qui est plutôt bien fait. Enfin, bon. Après, voilà, j'ai échangé avec le CNER, avec les agences de développement éco. Bon, ça prend du temps, tout ça. Mais il y a quand même diffusion un peu. Après, mais ce serait presque de la... Enfin, je sais pas, il y aurait une étude un peu de sociologie à faire sur la recherche, la production de la recherche, la diffusion de la recherche, pourquoi ça diffuse comme ci, comme ça, etc. Pourquoi est-ce que ces discours-là ont pris... Alors, il y a un héritage aussi de travaux faits aux États-Unis, Saskia Sassen, etc., qui a commencé à porter ce type de discours. Et puis en France, parce que bah, quelqu'un comme... C'est vraiment pas pour le stigmatiser, encore une fois, il a fait des choses intéressantes. Mais il y a des gens qui sont un peu spécialisés dans « je vais vendre... Davzi, c'est ce qu'il a fait. Il a la bourre. Laurent Davzi, vous regardez ses publications scientifiques. Des articles publiés dans les revues scientifiques, il n'y en a pas. Hein. Enfin, à ma connaissance, il y en a très, très peu. Il écrit des petits bouquins, mais il est très bon, il est très pédagogue. Et puis il a sorti des idées pas bêtes du tout, hein, c'est pas ce que j'ai. Et il a labouré les institutions, etc., qui sont demandeuses aussi de ça. Parce que moi, je pense quand même que démuni, le politique se dit, faut que j'identifie un peu voilà, le chercheur star, entre guillemets, qui va me dire ce qu'il faut faire. Et ben ça, c'est compliqué à bousculer les habitudes, quoi. C'est compliqué. Ça Parce que c'est aussi ce que vous disiez aussi parfois le politique il se dit bon ah bah oui tiens tout le monde est à fond là sur donc à l'époque sur l'épaule de Compaète bon maintenant sur les métropoles bon peu importe bon, bah je vais faire pareil au pire si je me plante les autres se planteront aussi ce sera moins grave mais donc aller vers des choses un peu décalées c'est donc on est enfin moi je passe franchement beaucoup de temps à essayer de communiquer diffuser mes travaux etc certains les relais ça voilà mais c'est quand même, il y a quand même. Moi, je suis assez convaincu que cette mode des métropoles elle va finir, mais je suis tout aussi convaincu qu'il y aura une autre mode qui va émerger, que c'est un peu consubstantiel de voilà. Donc peut-être la seule solution, c'est ça. Enfin voilà, ce qui fait mal en France, peut-être plus mal qu'ailleurs, c'est que le pouvoir de décision. Enfin justement, on revient à ce problème d'un État très jacobin et centralisé. Donc quand il y a une mode qui sort à Paris là, bah, ça, hop, tout le monde est impacté. Si on arrive à décentraliser un peu plus, peut-être il va y avoir des choses un peu intéressantes et décalées qui vont émerger dans telle région, et puis dans telle autre, ce sera autre chose, etc. etc. Mais voilà, c'est presque consubstantiel, à mon avis, de la fabrication des politiques publiques, et c'est plus vrai à certains endroits qu'à d'autres, et j'ai le sentiment qu'en France, c'est très très vrai. Quoi. Mais c'est pas que affaire de... Enfin, je me souviens d'un papier passionnant dans Le Monde, là, des chercheurs en gestion, qui parlait des modes en matière de management dans les entreprises privées. Un papier lumineux, mais je me suis dit, en fait, on peut écrire le même sur les politiques territoriales. C'est comment on fabrique, voilà quoi. Et que finalement, d'une certaine manière, ça rassure un peu tout le monde. Ça, parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah oui, il va falloir agir, mais en fait, bah non, mais là, je ne peux pas te dire ce que tu auras à faire. Il va falloir que tu réfléchisses, que tu analyses, etc. Et ils expliquaient ça sur l'enseignement aussi du management dans les écoles. Vous disiez, même les jeunes, en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur donne les recettes. Hein. Donnez-moi la recette, que j'aille l'appliquer dans les entreprises après. Et sortir de ça, c'est compliqué. Hein. C'est... Enfin, ça...
Merci. Bon, mais l'heure est avancée. Donc, merci encore à monsieur Olivier Bouba-Olga. Et puis, bonne soirée à tous. Et au plaisir de vous retrouver à l'Espace Mendès France.